Et on va commencer ce stream par un très beau message dans le chat à l'instant. Signé. Je crois que c'est un premier message en plus. Poupette. Oh, c'est trop mignon. Salut Étienne. Appelle-moi Mister CH. Tu vas bien? J'espère aimer ton live. Je passe la journée à la maternité. Alors ça, je ne peux pas garantir que tu vas aimer, mais on va tout donner. Maternité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton boulot? Est-ce que tu travailles dans le domaine médical? Est-ce que un heureux événement est en train d'arriver? Auquel cas, on est avec toi. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive pour toi, ce sera une belle journée. Anyway. Sugar, le poète. Est-ce qu'il y a réarmage? Est-ce que ça réarme? Merci à mon slip. Alors, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien cet univers, quand je dis merci à mon slip, je ne dis pas merci à mon slip. Que j'ai. Waouh. Ça me fait penser à des trucs. Un viewer qui vient de lâcher un 22e mois d'abonnement dont le pseudo est à mon slip. On précise, notamment ceux qui nous écoutent en podcast audio. Merci Primal Time. Voilà, ça c'est un pseudo qui ne nous met pas dans la sauce. Merci Yuyoman, merci Mumstone. Comment ça va, bande de belles personnes? Samuel, à quelle fréquence tu te coupes les poils du nez? Demande Clamacoquine. T'es un malade, dit Original Pimous avec Clama Coquine. Pas du tout, je pense que c'est une bonne question. Il n'y a pas de sotte question. Je ne dirais pas qu'il y a de sotte question, il n'y a pas de question bête. Il n'y a que de mauvaises réponses. Avec quelle fréquence me coupe-je les poils du nez? Écoute, c'est une bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Je fais partie de ces heureux élus qui n'ont pas à se couper souvent les poils de nez. Clama Coquine qui me précise que... on a aussi de ton côté des poils dans les oreilles. Voilà. Je fais partie de cette communauté des élus. Suis-je l'élu? Je ne sais pas. Qui n'a pas besoin de se couper souvent les poils de nez. Mais de temps en temps, parce que des poils qui dépassent du nez, c'est pas... Voilà. Je mets un petit coup de tondeuse. Il ne faut pas trop les couper. Alors, bon, je n'avais pas prévu ce débat sur les poils de nez, mais je pense que c'est un débat important. Il n'y a pas de mauvais débat. Il faut pas trop les couper, c'est une barrière contre les virus, me dit Manouf. Voilà. Moi, je ne coupe pas beaucoup. Je coupe ce qui dépasse, vite fait. Voilà. Je viens d'apprendre que certains se coupaient les poils de nez. Ben oui, quand ça dépasse du pif, oui, à un moment, il faut faire quelque chose. Waouh! Cette phrase est très étrange. J'ai eu le privilège de toucher les oreilles de Samuel Etienne la semaine dernière. T'es un gesson. Et je confirme qu'il n'y a pas de poils dessus. Plop, 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 plop. Un gesson, tu travailles dans le son. Sinon, cette phrase est très étrange. Ouais. Et attendez, alors, le papa ou la maman nous a répondu. C'est trop mignon, j'ai vu la réponse passer. Où es-tu? Tu disais que ton petit loulou était en avance, c'est ça? Aux assises du journalisme, stand radio 2B. Ah oui, ok. Ah mais oui, c'est parce que le casque m'avait laissé des petites peluches sur les oreilles et quelqu'un gentiment m'a enlevé les peluches. C'est-à-dire, je suis allé donner une interview aux assises du journalisme de Tours sur le stand de la radio 2B, comme 2B en Corse quoi, mais c'est pas une radio Corse, peu importe. Et le casque m'a laissé des petites peluches et quelqu'un m'a nettoyé les peluches. Voilà, incroyable hein. Quelqu'un m'a caressé l'oreille quoi. Et en termes de poils de sif, on est sur quel stade? Nous ne partirons pas sur ce sujet. Ici, c'est une chaîne sérieuse. Moi, je recherche le message sur... Voilà, poupette. Notre fils fait des siennes, il est un peu en avance, le col est bien dilaté. Let's go. Bonjour, premier live pour moi. Parle-t-on d'autre chose que de poils de nez? Quel est l'objet? Non, pas du tout. C'est le sujet ici. Ici, ça fait 5 ans que tous les matins, pendant 3 heures, on parle des poils de nez. D'ailleurs, je vais rebaptiser ce stream. Alors, attends. Hop. Le titre n'est pas bon. Ici, on parle de poils de nez. Voilà. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Donc, alors, toi, tu vas me dire, nouveau dans cette communauté, mais comment tenez-vous depuis 5 ans, tous les matins, 3 heures? On trouve. On a l'esprit d'escalier, un petit pas de côté. Clam à coquine, je tiens à présenter mes excuses à chaque viewer ce matin. Oui, c'est toi qui as lancé ce débat. Il fallait pas, c'est de ta faute, tu vas être puni. Oh, oh. Puis-je te remercier grandement pour le partage en fin de journée sur le festival Mabif Pro. Qu'est-ce que j'ai partagé? Qu'est-ce que j'ai partagé encore? Mon goûter? Parce qu'à un moment, j'ai partagé mon goûter avec quelqu'un. C'est à toi que j'ai filé un Choco BN Vanille? Mes préférés. Un peu sucré, mais bon. Ok. J'ai regardé l'audition au Sénat de Frontières. C'est une dinguerie. Alors, le Sénat est en train de faire toute une série d'éditions sur l'information sur Internet, en ligne. Hier, on a vu l'audition de qualité, ça change, des messieurs Jean Massier, Gaspard Gé et Hugo Décrypte. Et effectivement, on a vu qu'à cette occasion, que hier 15 avril, on est le 16, le média Frontière, enfin le média, le média Frontière avait été auditionné. Donc on va faire ça ce soir. Ce soir, un petit coup de frontière. Ouais. J'ai vu plein de messages qui m'inspiraient là. Très, très intéressant cette série d'auditions du Sénat. C'est une ambiance studieuse, ça bosse quoi. C'est assez. Hein, voilà. C'est bien aussi que de montrer quand les élus, les parlementaires, les politiques font bien leur travail quoi. Allez, je vous lis un petit peu parce qu'il y avait des messages qui me plaisaient bien. C'est un stream au poil, exactement. Est-ce que tu as mis. Quoi? Tu as mis quoi? Tu as mis ta placée de numéro 1 sur Valorant de côté. J'ai pas la ref là. J'ai pas la ref. Ta place de numéro 1. Ah! Non, mais on va reprendre hein, le jeu vidéo, mais en ce moment, il y a pas mal de. Il y a pas mal de. Il y a pas mal de. Mais bien sûr, on n'oublie pas. Ici, on est gamer avant tout. Hein. On rappelle qu'on est toujours en préparation de. Ah, d'ailleurs, YouTube n'a pas trop apprécié le passage nostalgie avec les anciennes musiques. Ah, au début, là, quand on a écouté Gotenner, tout ça. Le replay Sénat va mettre un peu de temps. Désolé, je suis désolé, Mathieu, c'est de ma faute. Te reste-t-il de l'argent public pour me payer des skins Overwatch Legend Sky? Clic droit, bandef. Ah non, hashtag humour. Non, je le garde pour moi, je le garde pour moi. Argent privé, argent public, on prend tout ici. Bien sûr. Alors attendez. Ah, Yandereko. Hello Samuel. Hello Yandereko. J'ai regardé la rediffusion de Culture Clash. Alors, alors c'est adorable. Mais je crois que Culture Clash, c'est Rayou. Je crois que c'est Étoile. Rendons à Rayou ce qui est à Rayou. Hein, espèce de goat, va. Et je ne sais pas qui a commencé d'ailleurs. Je sais pas si c'est, je pense qu'il a créé Culture. Culture Clash avant, et moi j'ai créé Réponse Cash. Alors je vais vous dire pourquoi on a inventé un jeu qui s'appelle Réponse Cash, alors que je pense que Culture Clash de Rayou existait avant. Bon, d'abord, j'avais même pas fait gaffe. Et surtout, c'est une émission qui c'est un jeu sur l'argent. Ça parle d'argent. Et oui, Yandereko, c'est ton message. Ça parle d'argent. Et donc on s'est dit, ben tiens, on va faire les comment le l'agence avec qui je travaille sur le jeu. Tabata était déjà prise? Tabata était déjà prise? J'ai pas la ref. Tabata? Tabata Culture? Tabata Clash? Je l'ai pas. Ah, j'ai pas la ref là. Donc Tabata c'était pas une sorcière. C'est pas la sorcière? Petite sorcière bien-aimée là? Non, pas comme ça, non? Avec Jean-Pierre, non? Pas ça, je sais plus. Et donc, il me propose question cash. Voilà. Et j'ai dit, bah non, question cash, ça fait trop penser à question pour un champion. Après, on va me dire, oui, tu utilises ta notoriété du service public. Oh, Charles, arrête de casser les couilles. Et donc, j'ai dit, non, on va pas, vraie histoire. Je dis, on va pas appeler ça question cash, parce que ça fait trop penser à question pour un champion. Voilà. Donc, on va appeler ça réponse cash. Résultat pour l'édition 1 du jeu il y a un an. J'ai commencé l'émission en disant bienvenue dans Question Cash. La prod et l'agence étaient morts de rire. C'est passé des mois à leur dire qu'on n'allait pas faire Question Cash parce qu'elle faisait trop penser à la question pour un champion qu'il fallait appeler ça réponse cash. Je débute l'émission pour avoir replay. Allez voir le replay de l'émission 1. Je dis bienvenue dans Question Cash. Le fou du bus. Donc, résultat, on a fait une édition de. Quel jour on est ? On est jeudi. C'était mardi. Voilà. Et là, le bonheur, le succès. On avait un petit peu changé les règles, on a un petit peu changé les questions. On avait des petits jeux dedans, des fléchettes, du basket, du palais, des invités de fou. Point d'exclamation cash. Et pas Tabata, je sais pas quoi là. Cash comme C-A-S-H. Et vous l'avez. Des invités de fou, le Domingo, la Baguera, la Enjoy Phoenix, le Kevin Tran, le... comment il s'appelle cet humoriste, tellement drôle, tellement sexy, là, tellement... espèce de shiny, là, Thomas Dozer. Voilà. Point d'exclamation, cash, et vous avez le replay. Hein. Vous le savez que je suis pas un youtubeur, moi je suis un streamer. Eh bien, cette vidéo est en train d'exploser sur YouTube. Voilà. En vrai, ça fait plaisir. Et comme je mets de plus en plus des extraits, grâce à Mathieu d'ailleurs, des extraits de la revue de presse sur YouTube, juste pas seulement la rediffusion de la revue de presse comme d'habitude, mais des petits extraits, notamment thématiques, eh ben, y a une petite dynamique qui est en train de se mettre en place sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Je pense que, au-delà de la qualité de l'émission, le fait qu'il y ait une petite dynamique sur la chaîne YouTube explique peut-être cela. Voilà. Un format plus régulier serait bien, bah, mais ça coûte des sous. Ça coûte des sous d'argent privé même en plus, donc tu vois. On veut Charles Allong dans Réponse Cash. Impossible. Non, non, il faut donner des bonnes réponses. Tu peux pas inviter le rapporteur dans un quiz de culture. Il faut donner des bonnes réponses et tu peux pas inventer, tu peux pas mentir. Le mec va se faire bananer première manche, quoi. Comme le dit Mumstone, le gars n'a que des questions, il a pas de réponses. Donc les questions, c'est moi. Donc Tiens, je vous mets le sommaire de ce qui arrive. Il est où le sommaire ? Ça, c'est le sommaire de ce qui arrive là, de ce matin. Ah oui, puis comme le dit Zertis en plus, à chaque fois que je vais lui poser une question, quand ce sera son tour, hein, il va nous répondre.
Je vous remercie pour votre réponse.
Non. Non, non. C'est vous qui devez donner la réponse. Ah oui, on peut pas que poser des questions, la même question à l'infini, comme ça, sans jamais écouter les réponses. Non, non. Dites-moi, quelle est la monnaie du Japon ? 5 secondes.
Je vous remercie pour votre réponse.
Oh, il comprend rien. C'est un enfer. Il comprend rien. Vous dites le rouble ? Le rouble ?
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Oui, mais non, mais c'est faux.
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Non, non, mais c'est faux.
Pardon, soyons factuels.
Non, mais c'est pas parce que vous le dites plusieurs fois que c'est vrai. Le fou du bus, c'est insupportable. Je peux pas l'inviter. L'émission n'aura aucun sens. Qu'est-ce qu'on rigole ? Bon, tu vas faire la Zidane, Samuel ? Ah, je suis pas sûr. Allez, le Rubik's Cube, là. Ça m'a tué, ça. Le Rubik's Cube... Zera qui dit l'air fier comme Artaban, là. Fier comme un bar tabac. Allez, on va jouer au Rubik's Cube. J'ai la revue de presse à faire, moi. Pas sûr, la Zidane Stan. Peut-être l'année... Non, peut-être que je saute mon tour. Ouais. C'est fou. Je vous lis un petit peu, c'est mon petit plaisir, et puis on démarre cette revue de presse, bande de beaux gosses. Ouh, c'est pas mal ça. Ah, c'est très intéressant, mais tu y attends. Mais c'est très intéressant. Attends, fais voir. Ah ouais. C'est génial. Ok. Non, je note un truc là, j'en parle pas maintenant. Sinon, vous allez tous vous barrer. Mais. C'est hyper intéressant. Je fais une capture d'écran de boomer. Quand je prends. Vous aussi, les vieux, vous faites ça, vous prenez votre. votre écran en photo. Bien qu'étant né en 71, j'ai appris à faire le cube en 3 jours, il y a 3 mois. Non, mais non, 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 non. Non, 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 il m'a perdu là, il m'a perdu. Non, non. Non, puis en fait, surtout, je me suis souvenu que l'an dernier, pour être pas trop ridicule, pas bon, hein, mais pas ridicule, j'ai quand même poncé les jeux pendant un mois. J'ai supprimé la revue de presse pendant un mois, l'an dernier. Hein, les gens qui me réclament la Zilane, là. Hein? Dites donc, je vais vous mettre devant vos responsabilités, vous. L'an dernier, pour pouvoir faire la Zilane, j'ai supprimé la revue de presse pendant un mois. Pour traîner les jeux un minimum, quoi. La Zilane, tu l'as fait ou tu l'as fait pas? Tu l'as fait sérieusement ou tu l'as fait pas? Arrête, Sugar. Nom de Dieu. Et donc voilà, et donc c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Qui va vous raconter le monde? Qui va vous raconter la marche du monde? Qui va vous raconter les dingueries de Trump? Qui va vous raconter le débat sur la loi Adam? Qui va vous raconter le fait qu'il y ait des influenceurs en matière de littérature assez passionnants? Qui va vous dire que l'Iran, sur un plan économique, est au bord de l'asphyxie? Qui? C'est qui? C'est qui? Comment ça, Nov? Non, mais t'as fini, oui? Voilà. Donc, non. Bon, alors. Mais enfin, Ketzak, ça va pas, non? Comment ça, c'est news? Donc, voilà. C'est qui? Donc voilà. Qui sont les oh qui sont les snorkies? Donc voilà, donc qui les snorkies? Qui sont les snorkies? Ah 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 ah. Petit plaisir. Vous l'avez pas celle-là. Il y a du YouTube, il y a du YouTube là. Je l'ai. Donc on me fait engueuler. Un peu de son. On a loupé le début, on a loupé le début. Même musicalement, il y a des petits décalages, je sais pas si vous avez entendu, entre la mélodie, la batterie, il y a des petits breaks, des petits trucs. Écoutez. Écoutez, musicalement, il y a des trucs intéressants. Tu vois, il y a une petite. Bon, tac, tac, c'est un peu binaire. Bon, il y a un petit break là, c'est pas ça. Là, les petits trucs, je sais pas, c'est pas mal, je trouve. On parlait déjà de Kiki, ouais. Ouais, ça parlait déjà beaucoup de Kiki. Qui sont les snorkies? C'est de quelle année ça? Ouh, c'était avant la télé, ça. C'était il y a longtemps. Qui sont les snorkies? Voilà, c'était ça. Il y a des chromatismes sympas aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire Clément, mais je valide. Tintin. Allez. Ça va, il me reste encore un petit peu de temps pour échanger avec vous. Trop mignon, c'est quoi? C'était un dessin animé qui s'appelait les Snorky. Ah, Snorky, parce que snorkeling. Right. Vous connaissiez pas? Bah oui, mais c'est une chaîne de culture ici. Qu'est-ce que tu crois? Tiens, je vais vous épingler le réponse cache là, parce que je suis trop fier de cette émission. Qui sont les snorkies? Qui? Pour Satisfactory, ah, ça revient à la Zidane, il faut que quelques centaines d'heures d'entraînement. Non, mais voilà, non, mais cette année, non. Non, 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 non. L'année prochaine, peut-être. L'année prochaine, peut-être. Voilà. Mais j'ai trop, trop, trop de taf, là. Oh, merci, Vastaquet. Merci, Vastaquet, pour ton message. Je ne connaissais pas et maintenant je chante le générique, mais je vais vous raconter moi les snorkies. Snorky. Culture, chaîne de culture. Let's go. Merci, Zartmo. Alors, donc, série télévisée d'animation américano-belge. Déjà, qu'est-ce qui se passe, toi? Un dessin animé américano-belge. Waouh! 65 épisodes, 22 minutes. Basé sur une BD créée par un dessinateur belge, Nicolas Broca, en 82. Voilà. Anna Barbera Productions pour la prod. Responsable du grand succès des Schtroumpfs. Je pense même que Scooby-Doo, tout ça, c'est les mêmes aussi. C'est Anna Barbera, j'ai l'impression. J'ai l'intégrale en VHS, me dit Étienne. Waouh! Je sais pas ce qui me fait le plus peur dans ta phrase, que tu aies l'intégrale des Snorky ou que tu aies encore des VHS, c'est-à-dire peut-être même un magnétoscope VHS à la maison. Et là, c'est très impressionnant. Et à mon avis, il doit pas y avoir que du Snorky en VHS, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, nostalgie, nostalgie. Quand tu nous tiens. Hein? Ouais. Oh, hein, il y a des vieux films, hein? Hein? Des petites VHS cachées derrière les... dans la bibliothèque derrière les livres, là? J'ai 20 ans, j'ai des VHS, tu me dis Nanaël. Bizarre, ça, par contre. Des films de genre, exactement. Les... Des films de genre. VHS, t'inquiète, c'était des cassettes vidéo avec de la bande dedans, enfin peu importe. Alors, Snorky, aventure de petites créatures sous-marines colorées, toujours prêtes à aider en cas de problème. Elles disposent d'une sorte de tuba sur la tête dont elles se servent pour se déplacer sous l'eau. Et quelqu'un dans le chat m'a dit, mais oui, Snorky, snorkeling. Incroyable. C'était sympa comme tout. Qui sont les Snorky? Tintin. Ah, Titi, tu as la musique dans la tête maintenant. VHS, documentaire animalier sur les humains, je vois pas le problème. Tu appelles ça comme ça, toi? Ok. Le grand-père de mon ex m'avait donné des cassettes et au milieu des films classiques, il y en avait des, comment dire, des coquins. Waouh! Aymeric, je suis en train de me faire de visionner dans ma tête la scène là. Donc, ton ex, c'était ta petite amie à l'époque. C'est ça? Ou l'inverse. Ton petit ami. Peu importe. Et à un moment, son grand-père te dit, tiens, les jeunes, j'ai un cadeau pour vous. Il débarque avec un gros carton. Dedans, t'as des films avec Belmondo. T'as la Grande Vadrouille. Voilà. Et t'as des. Wouhou! Ton ex-copine. D'accord. Waouh! Et t'as des. Ok. Incroyable. Et te l'avais mis sous le sapin, non? Pour Noël? C'est ça? Juste sous les boules? Incroyable, incroyable. C'est fou. Là, on vit vraiment une période extraordinaire. Les épisodes des Snorky sont sur YouTube, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. La VHS poisseuse. La VHS poisseuse. Ah non, l'intro elle dure 30 minutes bloc, max. Il reste plus de 3 minutes. Ah non, les intros, c'est pas 1 heure ou 2 heures ici. Non, non. Oui, une chaîne sérieuse. Mort de rire, c'est ça. En me donnant le carton, il m'a fait un clin d'œil en me disant, je t'ai ajouté un petit truc. Waouh. Oh, le papy coquin. Le papy coquin. Il t'a fait un petit clin d'œil. Tiens, je t'ai mis quelques films. Avec un petit bonus. Oh, nom de Dieu. La VHS poisseuse. Non, la VHS peut pas être poisseuse. La VHS, elle est dans le magnétoscope. Tu n'as pas connu les magnétoscopes, toi. La VHS, tu la mets dans le magnétoscope, elle est protégée. Elle est dans le magnétoscope, elle est à l'abri de quoi? De quoi? De caisse. Donc, non, elle ne peut pas être poisseuse. Qu'est-ce que ça? Mettez un peu de rigueur sur cette chaîne. Ça part à volo, votre histoire. Quand même. Bon, je crois qu'on s'est un peu égaré, non? Hein? On s'est peut-être un peu égaré, quoi. Peut-être, là. Comment ça, la télécommande, par contre? Ah non, arrêtez. Stop, stop, stop. Merci, j'ai remercié aucun sub. Merci Mitsuhiko, on va en parler de la loi Yadan. Ouais. Tout à fait, tout à fait. On parlait de CNews de base. On a dérivé, hein. Merci Nategis pour le Prime. Merci Jim Boring pour le 4e mois d'abonnement. Merci Best Risotos pour le 30e mois, nom le Dieu. Merci Mister Blazda. Oh, faut que je prenne du spray, moi. J'ai pas pris mes médicaments contre les pollens. Merci Mister Blazda, merci Marceau, merci Moalchimiste, merci Amonslip à nouveau. Vous êtes incroyable. Je sais pas si j'en ai du spray là. Est-ce que j'en ai du spray ici? Peut-être, peut-être. Bougez pas.
J'arrive. J'arrive les enfants, j'arrive, bougez pas. Excusez-moi. Eh non, je suis pas parti chercher des VHS. Eh non. Je suis parti, j'ai oublié de prendre mon antihistaminique. Du coup, je tousse. La pollution, les pollens, tout ça, tout ça. Et en plus, ils veulent supprimer les ZFE. Ah ah, et c'est un des titres de l'actu aujourd'hui. Il est où mon café? Faut que je me nettoie les... Pardon, la bouche, parce que le spray, après, ça fait des aftes. Les bains de bouche. Les bains de bouche au café. Si vous ne connaissez pas les bains de bouche au café, vous ne connaissez pas la vie, vous ne connaissez pas le bonheur. Et là t'as une haleine de prince. Et là, pendant des heures, les gens qui vont te croiser, ils vont sentir ce parfum délicat de café avec cette petite touche de lait, de l'amertume, de la douceur en même temps. Mais et les gens qui te croisent ne savent pas comment l'expliquer, mais d'où vient ce magnétisme, cette présence, ce parfum à la fois dans la douceur et dans l'animalité. Mais c'est les bains de bouche au café au lait. C'est tout simple, en fait. Je vous donne mes tips. Merci Scroff, merci Flamme d'Argent, merci Flormac. C'est incroyable. Hein, c'est légal, c'est bien sûr, c'est légal. Et là, je peux dire, là, je vais enfin pécho grâce au bain de bouche au café, me dit Sugar, exactement. Et là, ton interlocuteur ou ton interlocutrice ne sait pas. Au moment où son cerveau commence à capter les très légers effluves de café au lait, il est piégé. C'est trop tard. Il est. Là, il ne peut rien. Tu ne peux pas lutter contre ça. Bon, l'essentiel de ma réussite pro vient de là, hein. Ça marche pas avec la clope, hein, par contre. Juste. Voilà. Ça, c'est moins bien, ça. Quoi? Tu as déjà entouré les amygdales avec la langue? Hein? Quoi? 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 Ok, on va aller bosser parce que ça part en sucette, là. Ok, bon. Vous êtes prêts pour la rue de presse, les beaux gosses? Là, on y va. Là. 32 minutes, il est temps. On va bosser un peu. Qui sont les snorkies? Qui go? Ok, vous êtes incroyables. Bon, on va commencer. En fait, la revue de presse commence vraiment là, puisque pour le podcast audio, parce que voilà,
Je suis étonné du succès de cette revue de presse en podcast audio. Elle commence là, on leur met pas l'intro, on leur met pas les délires. Peut-être pour ça qu'elle marche bien la revue de presse en audio d'ailleurs. Mais enfin bon, peu importe. On y va ? Ok, je vous mets ça. Je vous la mets. Hop, c'est parti. 3, 4. Oh la vache, mais le sommaire, il a changé. Ah, il est encore plus beau qu'avant. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Tac, sommaire. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver. Je salue tous ceux qui nous écoutent en live sur Twitch. On est le jeudi 16 avril 2026. À ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube et à ceux qui vont nous écouter en replay, en podcast audio. Ça veut dire que où que tu sois, tu peux écouter cette revue de presse. Voilà, en courant par exemple, pour de l'air. Dites-moi où vous écoutez cette revue de presse parfois. Voilà. Cambrorin, fervente auditrice du podcast, vous l'écoutez où ? En courant, en faisant des courses, dans le bain, au taf, ok ? Luz Axel me dit au taf, au bureau, me dit T-Bay. Pendant le réarmement, waouh ! Ok, sur les toilettes, mais bien sûr ! Ok, au stand de tir, ouais ! Je vois que ça réarme, en tout cas, c'est en soirée, waouh ! En soirée coquine, très bien. Ouais, je suis en train de chasser des images de ma tête, de faire le vide. Ok, c'est bon. Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. Et on va commencer par le sommaire, comme tous les jours. Je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Dans l'actualité, vous êtes trop en forme. Ça me bouleverse. Alors, soyons un petit peu sérieux, parce que je vais vous parler de choses sérieuses. On va parler aujourd'hui, d'abord de la guerre en Iran. Voilà, on est dans les 15 jours de cessez-le-feu. On aimerait tous savoir ce qui va se passer après ce cessez-le-feu. Voilà, les négociations, il y a eu 20 heures de négociations entre les États-Unis et l'Iran, ça n'a rien donné. Voilà. En attendant, eh bien, il y a un papier du Monde qui nous dit que l'économie iranienne est au bord de l'asphyxie. Voilà, c'est un papier qui nous parle de l'économie du pays, mais un papier du coup qui nous parle des Iraniens, des Iraniennes, et le papier nous dit, bah, on voit pas bien comment le pays peut tenir, quoi. Voilà, l'image de destruction, là, elle est juste incroyable. Donc, on lira ce papier. Iran toujours et des tensions, des bisbilles entre Trump, président américain, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Alors avant, les deux, là, copains comme cochons, hein. Cul et chemise, c'est simple. C'était le chouchou, le pays chouchou de Trump en Europe, ces derniers mois, c'était... mais c'était l'Italie, c'était Meloni. Je crois même que ça a été peut-être la seule dirigeante européenne à venir pour l'investiture de Trump, une histoire comme ça. Voilà. Donc copains comme cochons. Voilà. Avec la Hongrie, peut-être plus encore que la Hongrie. Voilà. Alors, avec un pari de Meloni, je vais être le copain, le copain comme cochon de Trump, et je vais en tirer quelque chose, des avantages, quoi, avec une relation particulière, spéciale avec les États-Unis. Voilà. Et alors, je vais vous dire, moi, qu'est-ce qu'a obtenu Meloni en échange de son soutien à Trump ces derniers mois ? Je vais vous le dire, moi. Bah, rien ! Voilà. Notamment dans la guerre commerciale, par exemple, des États-Unis avec les Européens, on aurait pu penser que, allez, Donald, fais pas ta... Vas-y, fais-nous des droits de douane un peu... rien ! Putzob, comme dit Poum ! Voilà. Voilà. Et puis là, Trump, il a fait la boulette... Bon, je veux dire, la boulette. Il a fait une boulette de plus et il a critiqué avec violence le pape. Pop, le pape. Et ça, les Italiens, ils n'ont pas trop aimé. Voilà. Et là, Meloni a dit, pop, moi, c'est fini, là, vos conneries, là. Le Groenland, j'ai rien dit. Le Venezuela, j'ai rien dit. La guerre commerciale, j'ai rien dit. Le pape, là, c'est fini. Finito ! Voilà. Donc, échange houleux entre Meloni et Trump sur le pape et la guerre, on lira ce papier. Alors ça, évidemment, que on est obligé d'en parler, c'est au cœur des débats politiques. La loi Yadan, hein, contre les nouvelles formes d'antisémitisme, qui n'est pas votée, hein, qui est en débat à l'Assemblée, c'est la une du Parisien notamment, tous les journaux en parlent ce matin. L'Assemblée examine ce jour une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet sensible sur lequel on prendra le temps, comme toujours ici. Ses opposants dénoncent le fait qu'elle limite la possibilité de critiquer Israël. Voilà. Donc on a un dossier parisien sur cette embarrassante loi Yadan sur l'antisémitisme. Je vous ai mis plusieurs papiers. On a aussi une double page dans Libération qui donne la parole à deux avocats, Cécile Ostier et Cédric Huzon-Sarano, qui nous disent tous les deux, oui, effectivement, il y a une pétition de 700 000 signatures bon, qui a été... qui du coup n'est pas retenu, hein, je vous lirai ça. Et ces deux avocats nous disent, alors la loi Yadan, c'est une mauvaise solution. Voilà, c'est pas cette loi qu'il faut. Mais il y a un vrai problème sur une nouvelle forme d'antisémitisme en France. Donc voilà. Le papier me semblait assez subtil, donc je le proposerai à votre réflexion. Bande de gens intelligents. Alors, gros dossier sur... Merci Mitsuhiko, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure sur Marc Trévédic. Tu sais, je lis tous les papiers, tous les journaux. Après, je ne peux pas mettre tous les articles. Sinon, la revue de presse, elle durerait 24 heures et je ne pourrais pas manger, et je ne pourrais pas dormir, je ne pourrais pas boire et je mourrais. Et vous ne voulez pas que je meure. Vous voulez que je sois là tous les matins. Et puis, je suis père de famille, bordel. On va parler aussi de des ZFE, les zones à faible émission. Voilà. Plusieurs papiers aussi pour avoir plusieurs regards sur cette actualité. Et là aussi, gros débat. Hein, il y a des milieux en France, des milieux politiques notamment, qui disent « Ah, ZFE, le truc de bobo, là, de riche, de bourgeois, le truc qui vient d'en haut, là, hein, pour nous empêcher de circuler. » Voilà. Puis d'autres qui disent « Mais non, vous avez rien compris, c'est juste, c'est pour pas mourir, c'est parce que l'air est irrespirable dans nos villes, et enfin, à un moment, faut prendre des décisions, et puis c'est pas une loi qui vient d'en haut, elle a été pensée par les citoyens, elle a été votée à l'Assemblée et au Sénat, enfin bref, le débat est hyper intéressant. Je vous ai mis plusieurs articles là-dessus, hein, vous le voyez, un article dans Le Monde factuel sur les zones à faible émission enterrées à l'Assemblée, hein, finito, hein. Un article dans Libération, très en colère, qui dit, alors c'est vraiment les démagogues de tous bords qui ont eu la peau des ZFE, voilà, voilà. Et puis, alors, vous avez un dernier article hyper intéressant de l'Opinion qui dit, calmez-vous, calmez-vous. La peau des ZFE, peut-être, sauf que le Conseil constitutionnel va censurer. Ça va pas passer, ce truc. Voilà. Et donc, l'Opinion dénonce le théâtre politique des partisans comme des opposants aux ZFE qui savent pertinemment, c'est l'analyse de l'Opinion, peut-être que l'Opinion se trompe, que le truc va être bâché par le Conseil constitutionnel et que ça va pas reculer, en tout cas pas là, sur les zones à faible émission. Voilà, intéressant, hein. Bon, peut-être que l'Opinion se trompe, mais on verra. Ensuite, un truc plutôt sympa, c'est les, alors j'aime pas trop le mot, mais bon, c'est celui du Figaro, les influenceurs qui remettent les jeunes à la culture. Je sais que vous le savez, il y a beaucoup de jeunes gens, hein, créateurs de contenu sur Internet, des garçons, des filles, qui amoureux de littérature, de lecture, qui proposent leur coup de cœur à leur communauté. Voilà. Le Figaro fait un dossier là-dessus. Comme toi, ah non, moi je lis pas, non, je vous propose pas des romans. Je pourrais. Hein. Ma petite sœur, elle dit que je devrais faire un truc sur la littérature, parce qu'en fait, ma vraie passion à la base, c'est ça. Hein. L'actualité, c'est pour bouffer. Hein. L'actu, c'est pour bouffer. Hein. Non, je plaisante. J'aime bien aussi. La preuve, c'est que même quand je suis en vacances, je lis tous les journaux. Le fou du bus. Quand je suis en vacances, je lis tous les journaux. C'est mon kiff. Et donc, le Figaro nous dit, alors que depuis quelques années, les jeunes lisent de moins en moins de livres, les influenceurs, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça veut rien dire, littéraires, se sont multipliés sur les réseaux sociaux, au point que les maisons d'édition, pourtant habituées aux médias traditionnels, commencent à s'attacher à leurs services. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et puis un joli portrait dans l'Humanité sur un rappeur que je ne connaissais pas. Est-ce que vous le connaissez? Il s'appelle Will, le rappeur qui voulait être heureux. C'est un très beau portrait, bien écrit, d'un jeune homme assez étonnant. L'artiste breton, bon, c'est pour ça que j'en parle. il serait normand, pas un mot, hein, dans la revue de presse de Samuel. Mais là, il est breton, donc j'en parle. L'artiste breton mêle une écriture humaniste, héritée d'Ayam, et les mélodies de la variété pour changer la paix et le vivre ensemble. Alors, il y a Futon qui veut dire un cousin de Bolloré, sûrement. Ah bah non! Pour chanter la paix et le vivre ensemble. Ah, du coup, c'est pas Bolloré, ça. Ah, hein. Hé, tu t'es trompé! Qu'est-ce que c'est? Oh, C'est des photos de Pio. Hélène m'envoie des photos de Pio. 6 semaines. Il est beau, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire un enfant si beau. Peut-être beau, il a prendre beaucoup d'ADN d'Hélène. Il est si beau. Il dort, il dort, il est paisible, il est. Voilà. Quel kiff. Je vous montre pas, on protège les enfants. Ah. Et donc, c'est pas un cousin de Bolloré, puisqu'il prône l'appel vivre ensemble. Il est par ailleurs animateur socioculturel. Voilà. Et puis il souffre d'un handicap. Et le garçon est assez étonnant. Voilà. Dans 4 ans, on aura la chronique des 3 enfants comme pendant les lives encore. Ah oui, c'est trop chaud. Trop chaud. C'est vrai qu'il faudrait rajouter Pio à l'émo de Samu Family, puisque dans mon émo de Family, j'ai que 2 enfants. Pio, ça vient d'où? Ça vient de piété. Ça vient, c'est un prénom italien. Comme Padre Pio. Et ça vient de pieux, de piété. Voilà. Bon, moi-même, je suis pas un grand croyant, mais moi, j'aimais bien ce prénom. Voilà. Qui sont les snorkies? Alors comment est-ce qu'il vous plaît ce sommaire? Est-ce qu'il vous plaît ce sommaire? C'est un beau sommaire. Hein, il y a de la matière. Il y a des belles choses. Oui ou non? Toi ou Hélène, italien? Bien sûr. Ah, bien sûr que. Mais moi je suis italien à la base. Je voulais toujours cacher. Bien sûr. D'ailleurs, je parle italien couramment. Tutti quanti. Vespa. Ferrari. La pasta. Alfa Romeo. Quattro formaggi! Voilà. Donc, oui, c'est à cause de mes racines italiennes. Tout à fait. La burrata! La burrata! Exactement. Maxime Biaggi! Voilà, c'est mon cousin d'ailleurs. Ah. Qu'est-ce qu'on est con, hein? Enfin, qu'est-ce que vous êtes con? Moi, je participe pas à ça, moi. Ah. Allez, vous êtes bête, hein? Vous êtes bête, c'est gênant, hein? C'est fou d'être aussi bête. Vous êtes prêts pour la revue de presse? On va bosser un petit peu. Merci Moby 333, merci beaucoup pour le soutien. Allez, go. On est go. C'est parti. Les champions. D'autant qu'il y a de l'actu. Hein. Allez, c'est parti. Je suis perdu parce que le sommaire a changé. Il est beau comme tout. C'est incroyable. Ok. Alors, évidemment, ici, on sait que le conflit en Iran se poursuit. On ne veut pas l'oublier. Là, on n'a pas trop d'infos en ce moment parce que on est en cessez-le-feu. Et on attend de voir ce que d'éventuelles négociations vont donner. Quand est-ce que ce conflit va s'arrêter? Est-ce que Trump va gagner son pari de l'étranglement du pays avec la fermeture totale du détroit d'Ormuz, y compris pour les navires transportant du pétrole iranien? En tout cas, ce qui semble être certain, et c'est ce que nous disent papiers du Monde, c'est que l'économie iranienne souffre énormément, et au-delà de l'économie, les Iraniens et les Iraniennes. Lisons ce papier de Majid Zerouki dans Le Monde. Au bord du précipice, combien de temps l'Iran pourra-t-il tenir? Engagé dans une course contre la montre pour contraindre l'administration américaine à mettre un terme à la guerre et à renoncer à ses exigences maximalistes, comme par exemple un abandon pur et simple par Téhéran de l'enrichissement d'uranium, la République islamique joue son va-tout en bloquant le détroit d'Ormuz. Vous savez que le détroit d'Ormuz, il est bloqué par l'Iran et les États-Unis maintenant. L'Iran pour peser sur l'économie mondiale, voilà, et les États-Unis pour dire ok, mais comme vous laissez passer certains navires, ceux qui vous arrangent, eh bien c'est on ferme tout. Donc ça, maintenant c'est bloqué de chez bloqué. Le président américain Donald Trump a en retour décidé d'organiser un blocus des ports par où transite l'essentiel du pétrole iranien à destination de la Chine, en choisissant l'étranglement, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Économique de l'Iran en le privant d'entrée d'argent, l'administration américaine tente de faire plier le régime, alors que la guerre a d'ores et déjà ravagé l'économie du pays, placée depuis des années déjà sous sanctions internationales. Mais je croyais que les États-Unis avaient donné un coup de pouce à l'économie iranienne en leur achetant du pétrole pour baisser les prix de l'essence. Alors, peut-être pas en achetant du pétrole iranien, attends, est-ce que les États-Unis ont levé les sanctions contre l'achat de pétrole iranien? Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui. Parce qu'en fait, les cours du pétrole explosant, Trump voyant les prix à la pompe aux États-Unis monter, dans un premier temps, mais bon, après c'est Trump, hein. C'est-à-dire que lundi, il fait un truc, le lendemain, il fait le contraire. Donc, effectivement, dans un premier temps, ils ont levé les sanctions contre le pétrole iranien momentanément pour qu'il y ait du nouveau du pétrole qui circule pour faire baisser les prix à la pompe aux États-Unis. Il l'a fait aussi pour le pétrole russe. Il a levé les sanctions contre le pétrole russe. Voilà. Et donc, pas surtout plus de sanctions contre la Russie, les deux. Et donc, Trump, on en a parlé hier, il a réussi à un moment. Il a changé d'avis sur l'Iran, mais il a réussi à un moment à lever les sanctions contre le pétrole iranien et donc à soutenir l'effort de guerre iranien en permettant au pétrodollar d'arriver à Téhéran pour que Téhéran puisse construire des nouvelles armes, voire en acheter à la Chine pour aller taper les pays du Golfe. Trump l'a fait, c'est documenté. Il a fait la même chose pour la Russie, voilà, avec des sanctions levées contre le pétrole russe pour ce qui vient financer l'effort de guerre russe contre l'Ukraine. Voilà. Bon, sauf que là, sur l'Iran, il a essayé de revenir en arrière parce qu'à un moment, il s'est rendu compte que c'était une énorme boulette. Revenons aux dégâts. Selon premières estimations, le conflit a endommagé plus de 125 000 bâtiments résidentiels et civils en Iran, dont 339 établissements de santé, 32 universités, 857 écoles. Les bombardements ont affecté ou détruit près de 20 000 unités industrielles, petites entreprises comme grands ensembles pétrochimiques et sidérurgiques, contraignant de nombreuses sociétés à fermer, à mettre des employés au chômage. Un premier chiffre vertigineux, avancé le 14 avril, il y a 2 jours, par le porte-parole du gouvernement iranien, estime à 270 milliards de dollars le montant des dégâts engendrés par le conflit. Ouais, 800 écoles. Bref, plus de 800 écoles. Autant voire plus que les capacités militaires et balistiques de la République islamique, Washington et Tel Aviv ont concentré leur attaque plus que sur les installations militaires contre le cœur de l'économie iranienne avec une volonté évidente de mettre le pays à genoux. Les secteurs les plus touchés par les frappes aériennes américaines et israéliennes sont les principaux de la production industrielle du pays, l'acier, la construction, la pétrochimie, la pharmacie. L'ampleur des destructions a été considérable. Il semble qu'Israël et les États-Unis ciblent intentionnellement les piliers fondamentaux des moyens de subsistance. Merci Karmar pour le raid, c'est adorable. Vous étiez sur quoi? Iranien, ainsi que la gouvernabilité de l'État, c'est-à-dire sa capacité à fournir des services. Jusqu'à présent, les coûts de reconstruction sont estimés à environ 300 milliards de dollars. Voilà. Hors site militaire et pertes économiques plus larges liées au chômage et à l'inflation. Donc juste en termes de destruction. Voilà. De civile et économique. Selon un économiste iranien, 3 à 4 millions d'emplois ont été perdus en Iran ou sont sur le point de l'être. Voilà. La guerre pourrait entraîner une contraction de l'économie iranienne de 8 à 10% en 2026. Merci, Trakium Mipa. Merci beaucoup. Donc là, il y a le détail des grosses entreprises sidérurgiques touchées, notamment, mais aussi des entreprises qui fournissent de l'électricité, du gaz, de l'oxygène, de l'air comprimé au complexe pétrochimique de la région qui ont été attaquées. Stream Camion? Ah, mais oui, Karmar, c'est toi. Ah, c'est génial. Karmar, c'est. Allez, follow Karmar. Karmar, c'est un chauffeur, c'est un routier qui stream. J'étais allé voir déjà. Ça, je me souviens. C'est génial. Karmar, Karmar. On parle de pétrole, on est raid par un routier. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Or, ces secteurs économiques que je viens d'évoquer figurent parmi les principales sources de revenus d'exportation de l'Iran, hors pétrole à hauteur de 15 milliards de dollars par an, soit près d'un tiers des recettes en devises. Donc une économie en partie détruite, des devises qui ne rentrent plus. L'étendue du désastre laisse peu de marge de manœuvre à la République islamique. À très court terme, l'économie iranienne dispose de certains amortisseurs, appareils étatiques habitués aux sanctions, ça dure depuis très longtemps, économie informelle, mécanisme de gestion administrative des pénuries qui devraient lui permettre d'éviter un effondrement immédiat. Mais une prolongation du conflit pourrait entraîner des destructions irréversibles et menacer d'un désastre social. la couverture du chômage et des produits alimentaires de base pendant un an nécessite entre 40 et 50% du budget public iranien qui est déjà en déficit. Si la guerre se poursuit, ou si un cessez-le-feu est conclu sans lever des sanctions, alors les chaînes d'approvisionnement resteront perturbées, les entreprises continueront de fermer, alimentant la colère publique et le mécontentement économique. À mesure que le coût de la guerre augmente, la mauvaise gestion, le manque de capacité de l'État à gérer la crise deviendront plus visibles et la probabilité d'un regain de troubles sociaux augmentera. Cet économiste iranien dit « un cessez-le-feu pourra mettre fin aux destructions physiques, mais il ne rétablira pas automatiquement les pertes de revenus. » Ça ne se fera pas comme ça. L'inflation, le chômage, ni l'érosion de la résilience des ménages, les effets sociaux de la guerre devraient durer bien au-delà des combats eux-mêmes. Le gouvernement est déjà contraint par la sanction, les sanctions, les déficits budgétaires, une inflation élevée, un faible pouvoir d'achat. Voilà. Il est peu probable qu'il dispose des ressources nécessaires, le régime, pour une protection sociale généralisée. Dans le pays, des personnalités, y compris officielles, ne cachent plus leur inquiétude. Si la guerre s'éternise ou si des cessez-le-feu temporaires sont mis en place, nous continuerons à faire face à des risques sécuritaires, à des sanctions, et dans telles circonstances, l'économie pourrait entrer dans une phase critique. Choc monétaire à venir, pénurie de matières premières, perturbation des importations, forte baisse des exportations. Dans ces circonstances, le déficit budgétaire de l'État va s'accroître et il existe un risque de rebond de l'inflation. Téhéran insiste donc pour qu'une levée des sanctions internationales fasse partie de tout accord, alors que l'économie du pays pourrait mettre des années, voire des décennies à se redresser. Mais, parce que là on a l'impression quand on lit ça, que l'Iran va imploser, va craquer. Mais la République islamique a également démontré avec le blocage du détroit d'Ormuz qu'elle peut elle aussi infliger des dommages économiques se répercutant à l'échelle mondiale. Alors, parmi les dernières mesures prises par Trump, il y a un blocage total du détroit d'Ormuz qui s'ajoute au blocage iranien pour qu'aucun navire transportant du pétrole iranien ne puisse passer. Voilà. Un ancien diplomate américain, Alan Eyre, écrit « Il y a peu de chances que toute pression supplémentaire arrive à contraindre Téhéran à modifier sensiblement ses lignes rouges dans les négociations. Mais en imposant ce blocus, les États-Unis courent le risque d'une escalade significative de la part de l'Iran, y compris des attaques contre les infrastructures énergétiques du Golfe ou des attaques dans le détroit de Bab al-Mandab, ce qui contribuerait davantage à déstabiliser l'économie mondiale, tout en plongeant un peu plus la République islamique dans le chaos. » Là, on en est à regarder une boule de cristal avec beaucoup de flou dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que malgré l'étendue des dégâts, des destructions, malgré la faiblesse de l'économie, malgré la tension sociale que ça va produire, est-ce que l'Iran va tenir dans ce bras de fer et impacter tellement l'économie mondiale, notamment américaine, que Trump va reculer? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je vous lis. Guerre d'usure, oui, de part et d'autre. C'est ça, à la Ster. Notre ami routier Karmar nous dit, d'ailleurs, je confirme, le GNC, c'est le gaz naturel, c'est quoi? Moi, je connaissais le GNL. Gaz naturel, c'est autre chose. C'est pour les camions. A beaucoup augmenté, quasi autant que le gasoil, tu disais. Il y a Cyril qui nous rappelle que Trump ne recule jamais. Il change juste de direction toutes les 5 minutes. Je trouve si dangereux de mettre l'Iran dans une situation de désespoir, écrit Alpacalypse. Combien de temps avant qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils décident de faire tapis? Gaz naturel comprimé? Ok, GNC, d'accord. D'accord. Pétri de bon sens ce chat. Attention avec cette notion de bon sens, hein, dont on s'en méfie comme de la peste. Le bon sens, le bon sens. Le bon sens, c'est souvent l'argument des populistes. Mais c'est du bon sens! Merci Stevio. Stevio Austin, merci beaucoup. On suit ça, bien sûr. Voilà. On va suivre dans les prochains jours, et encore demain, vendredi, l'évolution de ce conflit. Zertis nous dit, est-ce qu'on peut rester factuel, s'il vous plaît?
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Ok, Zertis. Parlons maintenant de Mélanie et de Trump toujours, parce que ces deux-là, eh bien, ça ne va plus. Voilà. Il y a de l'eau dans le gaz, il y a de la tension, c'est tendu. C'est tendu de chez tendu de chez tendu. Et pourtant, avant, c'était la Dolce Vita, c'était là. Il y avait une relation, il y avait de la lumière, il y avait quelque chose de tendre et d'aimant. Voilà, puis c'est fini. Merci Dark et Rumor. Qu'est pas ça? Échange houleux entre Mélanie et Trump sur le pape et la guerre. Voilà. Longtemps en accord avec le dirigeant américain, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui est au pouvoir depuis un petit moment, hein, en Italie. Hein. C'est compliqué en Italie de rester au pouvoir. Le système politique fait que les majorités se font et se défont, et donc il y a une vraie stabilité. La présidente du Conseil italien a jugé inacceptable les attaques contre Léon XIV. C'est vraiment les propos de Trump sur le pape. Ah, je n'aime pas ce pape. Je suis vraiment pas fan de ce pape. Waouh. Merci pour l'analyse de géopolitique, Donald. Et ça, c'est pas passé, quoi. Correspondance à Rome de Alan Kawal. Giorgia Meloni a longtemps agi comme si elle pouvait y échapper. Malgré l'engouement des débuts et les preuves postérieures de loyauté de la dirigeante italienne, le président des États-Unis a fini par la prendre pour cible à son tour. Je suis choqué par elle. Je pensais qu'elle avait du courage. Je me trompais. A ainsi déclaré Donald Trump au sujet de la présidente du Conseil mardi 14 avril dans un entretien accordé au Corriere della Sera, lui reprochant de ne pas avoir engagé l'Italie aux côtés des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Trump est déçu. La veille, après un an de crise transatlantique, Meloni avait émis pour la première fois un avis négatif au sujet du milliardaire, l'unique dirigeante européenne à avoir été invitée à la cérémonie d'investiture de Trump. C'était la seule, mesdames et messieurs. Hein? Quelqu'un me disait tout à l'heure, ah oui, mais Orban aussi. Il n'a pas été invité, Orban. L'unique dirigeante européenne à avoir été investie à la cérémonie d'investiture, acculée par l'opposition, a pris la défense du pape Léon XIV, jugeant inacceptable l'attaque violente que lui avait adressée Trump, le président américain, qui a jugé le pape faible sur la criminalité, après qu'il a manifesté sa ferme opposition aux entreprises guerrières menées par Israël et les États-Unis au Moyen-Orient. Là, c'est rien, parce que les mots de Trump contre le pape, ils étaient fous. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous reciter tout ça, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais essayer de vous retrouver ça, moi, en deux coups de cuillère à peau. J'ai un article du Monde là qui va me rappeler. Il va me rappeler ça. On va reciter quand même, parce que là, ça manque un peu de contextualisation quand même. Bougez pas les pruneaux. Let's go. Le problème, il y a trop d'articles, il y a trop d'articles. À Radio France, peut-être quelque chose là. Oh, c'est comme ça que je ne retrouve pas la citation. C'est fou ça. Trop d'infos, on est submergé d'infos. Ah, c'était sur Trou. J'aurais dû taper sur Trou Social parce que c'était sur son réseau. J'aurais trouvé plus vite. C'est ça que je vais faire. C'est bon, j'ai trouvé mon crible. Parce que tout le monde n'a peut-être pas vu les mots. Les mots assez forts. Voilà, je crois que j'ai un article dans les échos qui est OK. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. Pardon. Ah, mais vous voyez pas ce que je faisais en plus? Oh là là, Samuel. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très progressiste. C'est une insulte, ça. Et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité, a notamment déclaré Trump. Voilà. Bon, après, il s'est posté en Jésus, mais ça, on en a déjà parlé. Ce à quoi le pape a répondu: assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent, assez de démonstrations de force, voilà. Assez de guerre, la véritable force se manifeste en servant la vie. Trump avait aussi accusé le pape de faire joujou avec un pays qui souhaite se doter de l'arme nucléaire, donc l'Iran. Et il a déclaré, donc voilà, ce sont ses propos sur son réseau social, le pape Léon est faible face à la criminalité, catastrophique en matière de politique étrangère. Voilà. Il est même allé jusqu'à affirmer que si le pape a été élu, pape américain, c'est parce que c'est grâce aux États-Unis. Voilà. Léon, enfin grâce à lui-même. Deux points, ouvrez les guillemets. Léon ne serait pas au Vatican si je n'étais pas à la Maison-Blanche. Voilà. Bon, c'est du Trump. Voilà. C'est du Trump, c'est du Trump. Et quand on est dans les grands moments de Trump, voilà, on a cette petite musique pour nous rappeler que c'est un président pas comme les autres. Ça pourrait nous faire rire si le mec n'était pas président de la première puissance mondiale. Donc continuons entre Trump et Mélanie. Donc voilà, donc on vient de caractériser et de contextualiser les attaques verbales du président américain contre le pape. Giorgia Meloni, dirigeante d'un pays dont la capitale est aussi celle de l'Église universelle, ne pouvait plus se permettre la moindre ambiguïté après cet affront fait à l'évêque de Rome. La présidente de droite radicale du Conseil avait d'abord loué Trump dès son élection en 2024. Elle a ensuite évité de laisser paraître le moindre soupçon de critique à son endroit, rappelant même à l'ordre ses partenaires du vieux continent. Début 2025, elle avait salué la charge du vice-président américain J.D. Vance contre le modèle démocratique européen livré à la conférence de Munich. Ah ouais, c'est quand J.D. Vance avait dit que notre modèle politique européen était complètement naze, qu'on était un vieux continent en train de mourir et que finalement la solution pour l'Europe, si elle voulait se ressaisir, c'était que politiquement tout le monde bascule à l'extrême droite. Voilà. 2 semaines après, elle avait refusé de prendre le parti du président ukrainien après l'incident du bureau ovale, vous savez, quand Zelensky avait été humilié par Trump à la Maison-Blanche. Puis reçue en avril 2025, elle avait célébré devant un Donald Trump à l'air dubitatif une lutte commune pour la grandeur de l'Occident en général et pour la mémoire de Christophe Colomb en particulier. Voilà. C'est marrant parce que quelqu'un dans le chat me disait tout à l'heure, oh là là, comme tu y vas sur l'idylle entre Trump et Mélanie, non quand même, t'exagères. Non, non, c'était une boum, c'était un slow. Voilà. Mais un an après la rencontre de Washington, bah, ça a changé, la donne a évolué. Continuant à fournir des marques d'allégeance à l'allié américain, Mélanie a accueilli favorablement la capture du président du Venezuela, Nicolas Maduro. Donc ça, elle a dit que c'était OK. Elle s'est gardée de toute critique face aux menaces d'annexion du Groenland. Elle a dit, ouf, ouf, le Groenland. Avant de rester paralysée devant l'attaque contre l'Iran. Mais le poids de l'opinion a été décisif lorsque mardi, elle a annoncé la suspension du renouvellement automatique d'un accord de défense avec Israël, qui arrivait à échéance. Mélanie n'avait pas voulu reconnaître l'État de Palestine à l'automne, malgré les nombreuses manifestations d'Italiens descendus dans les rues parce qu'indignés par les massacres commis à Gaza. Malgré ses efforts vis-à-vis de Washington, l'arnaque. Rome n'a rien obtenu. La question qu'on pourrait se poser, c'est, oui, bah alors, pardon pour les mots, mais en gros, Mélanie a fait un peu carpette devant Trump, et peut-être qu'elle aurait pu être remerciée de ça. Hein? Eh ben non. Rome n'a rien obtenu, l'Italie a même subi le même traitement que les autres Européens en matière commerciale, la fameuse guerre commerciale, et a vu s'éloigner les espoirs d'influence que Meloni avait fondés sur l'adhésion, en simple observateur, de l'Italie au fameux Conseil de paix de Trump. Elle est même allée dans ce truc-là. On voit désormais que Meloni a sacrifié l'intérêt national de l'Italie à une vision idéologique, l'idée que partager une rhétorique avec l'administration Trump pourrait fonder une relation privilégiée, estime Leo Goretti de l'Instituto Affari Internazionali, bon bref, l'Institut des Affaires Internationales. L'échange houleux entre Trump et Léon XIV est intervenu le lendemain de la défaite décisive pour l'avenir de l'Europe de son allié historique, le Hongrois Orban. Le dirigeant illibéral, proche de Trump et pro-Kremlin, était une référence dans le camp de Mélanie. Pour le politiste Andrea Pirro de l'Université de Bologne, spécialiste des forces illibérales, justement, l'association avec l'administration Trump, dont les Européens ne soutiennent pas les guerres, va être difficile à faire oublier, notamment en Italie. De fait, Mélanie voit s'accumuler des déconvenues à domicile. Mieux vaut tard que jamais, mais Mélanie pourrait avoir attendu trop longtemps, estime un politologue italien et spécialiste des droits italiennes. Son gouvernement a annoncé des limitations de l'usage par les forces américaines de leurs bases en territoire italien. Mais la présidente du Conseil a perdu les 22 et 23 mars un référendum capital sur la réforme constitutionnelle. Je ne vous l'avais pas lu ça à l'époque. C'était un référendum sur la réforme constitutionnelle. Alors sur le fond, il y avait, bon, c'était intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, elle l'a perdu. Voilà. Merci Nero. Et c'était le signe d'un affaiblissement de sa popularité. Donc voilà où on en est. Petite lune de miel américano-italienne. Merci my bro. Qui vient a priori de s'achever. Pour l'instant. Merci My Bro, merci WB Corp, merci Dark et Rumor, merci beaucoup du soutien. Je vous lis. L'adhésion du Conseil de la paix qui coûtait 1 milliard. Alors oui, mais en tant qu'observateur, peut-être qu'elle n'a pas sorti le milliard. Je ne suis pas en sieste, je suis en train de vous lire. Salut Lulu, buveur de pastis. J'adore. Du coup, est-ce que Mélanie va de nouveau privilégier ses alliés européens? Ça, on ne sait pas, Greg. Parce que il y a eu plusieurs articles sur le sujet dans la presse ces dernières heures. Et les journaux constatent le désamour du moment, mais ne disent pas que pour autant Mélanie ne va pas se réaligner sur les positions trumpiennes dans les prochaines semaines. Mais là, sur le pape, c'était trop, quoi. Voilà. Bon, à suivre. On en reparle dans les prochains jours, et notamment de l'Iran. Je vous emmène en France maintenant, avec le débat du moment, un débat important sur lequel on va prendre le temps. Je veux parler du débat sur la loi Yadan sur l'antisémitisme. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est peut-être ça qu'on pourrait mettre sur YouTube. Vous savez qu'à chaque fois, on choisit une info qu'on met sur YouTube, qu'on met un petit peu en avant. Je pense que ce texte est tellement discuté, il provoque tellement de débats que je pense qu'on va faire ça, ok? Let's go. On va dire bonjour à nos amis de YouTube. Pardon pour la petite toux, j'ai pas pris mon antihistaminique. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Vous savez que tous les jours, on choisit une actu parmi toutes celles qu'on est en train de traiter et la partager avec vous. Voilà. Et ce matin, on s'est dit, ce jeudi matin 16 avril, que il fallait parler de ce débat assez passionné de la loi sur l'antisémitisme, la loi précisément sur les nouvelles formes d'antisémitisme. C'est la une du Parisien notamment ce matin. L'Assemblée examine aujourd'hui, donc c'est vraiment l'actu, une proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan. Ses opposants dénoncent le fait qu'elle limite la possibilité de critiquer Israël. Je vous ai mis plusieurs choses là-dessus. Je vous ai mis un dossier dans le Parisien pour comprendre un petit peu les faits. Un article également dans Libération, qui parle d'une mauvaise solution, cette loi, voilà, face à un vrai problème. Voilà. Donc, parlons-en d'abord les faits, peut-être avec Le Parisien qui fait un article assez clair sur la question. L'embarrassante loi Yadan sur l'antisémitisme, pourquoi embarrassante? L'Assemblée se penche donc aujourd'hui, mais demain aussi, sur cette proposition de loi. Proposition de loi, c'est quand le texte vient d'une assemblée au Sénat d'une chambre assemblée au Sénat et pas du gouvernement, dans ce cas-là on parle d'un projet. L'Assemblée se penche aujourd'hui et demain sur la proposition de loi portée par la députée Renaissance, soutenue par l'exécutif. Le texte dévie jusque dans les rangs du bloc central. Vont-ils parler, me dit-il, de la deuxième plus grosse pétition signée, 700 000 signatures et ignorée? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je vais en parler. Bien sûr. Article de Victor Delaire. Voilà plus d'un an et demi que la loi Yadan traînait dans les travées de l'Assemblée. Depuis son dépôt en commission, puis son passage devant le Conseil d'État, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur dans la discussion, dans les esprits. C'est finalement aujourd'hui, en fin de journée, que les députés devraient entamer dans l'hémicycle l'examen de cette proposition de loi visant, je cite, à lutter contre les formes, je te disais nouvelles, renouvelées, de l'antisémitisme. Ce n'était pas forcément maintenant qu'il fallait l'inscrire. Regrette déjà une éminence grise du Palais Bourbon, ça va être éruptif. Inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement, alors je vois que certains dans le chat ont déjà des avis définitifs sur ce texte, parce que vous avez sans doute bossé et vous êtes informé, mais peut-être que tout le monde n'a pas les éléments et les clés sur ce sujet, donc vous me permettrez de lire les papiers avant de lire vos commentaires, sinon plus personne ne va rien comprendre. Inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement, voilà, qui n'était pas obligé de le faire, conformément à l'engagement pris par Sébastien Lecornu, Premier ministre, en février devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le texte ne manque pas en effet de provoquer des réticences à l'Assemblée, y compris au sein même du groupe Renaissance, pourtant c'est le groupe de Caroline Yadan. Personne ne conteste qu'il y a une montée de l'antisémitisme dans notre pays, bien au contraire, mais ça crée plus de tensions qu'autre chose, s'interroge un collègue de Renaissance, de la députée. Des gens ont la sensation que c'est devenu un texte anti-LFI. À la source des polémiques, là on va commencer à comprendre le problème, pardon de prendre mon temps, mais je pense que plus on prend ce temps sur l'actualité, et moins on prend le risque de dire des bêtises. À la source des polémiques, le texte prévoit notamment d'ajouter dans le premier de ces quatre articles la mention « même implicitement ». Et là, ça va pas. Ben oui. Dans le code pénal, au sujet du fait de provoquer directement des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes. Un ajout qualifié de flou, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, même implicitement. Par ses détracteurs qui craignent aussi celui prévu par l'article 2 qui prévoit un nouveau délit contre ceux appelant publiquement à la destruction d'un État reconnu par la République française. Ses opposants redoutant une forme d'interdiction, vous l'avez compris, de critiquer Israël. Alors qu'une pétition signée par plus de 700 000 personnes, ce qui est gigantesque, appelle les députés à rejeter un texte constituant un réel danger pour la liberté d'expression tout en muselant tout soutien à la cause palestinienne, l'ensemble de la gauche annonce déjà s'y opposer. Hein ? Y compris le PS, dont le patron Olivier Faure a annoncé que son groupe votera contre, malgré une abstention en commission. Ses défenseurs n'avaient pas prévu le succès de la pétition, politiquement ça a joué. Voilà. Donc cette pétition, elle a été mise de côté, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, mais elle a sûrement pesé sur le vote des députés. Ses défenseurs n'avaient pas prévu le succès de la pétition, politiquement ça a joué, analyse le LFI Antoine Léaumont, dont le mouvement prévoit de manifester aujourd'hui à l'arrivée du texte et de défendre une motion de rejet avant son examen. C'est effectivement, comme quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, la deuxième pétition la plus signée de l'histoire sur le site de l'Assemblée, hein, derrière celle sur la loi Duplomb. La missive a néanmoins été classée, donc mise de côté, je vous le disais, ce mercredi par la commission des lois, enterrant la perspective d'un débat dans l'hémicycle. Ce que prévoit cette disposition, qui n'est pas très ancienne, hein, que passer un certain nombre de signatures d'une pétition sur le site de l'Assemblée, eh bien, normalement, ça doit provoquer un débat dans l'hémicycle, enfin l'Assemblée, à condition que la commission des lois en décide autant, le décide. Et là, il n'y aura pas de débat. Sur la pétition. Il va y avoir un débat sur le texte, bien sûr. La pétition porte sur un texte qui n'a même pas encore été débattu dans l'hémicycle, observé en amont Caroline Yadan, et celle-ci d'appeler les signataires à avoir la curiosité de lire la dernière version de sa loi et ne pas s'en remettre à des contre-vérités, dit-elle. Il y a un débat aujourd'hui, oui, sur le texte, mon chouchou Oxreds, sur la proposition de loi. Mais là, ce que prévoit cette histoire de pétition, c'est que quand la pétition dépasse un certain nombre de signatures, il y a un débat sur la pétition. C'est pas tout à fait la même chose. Un point sur lequel compte bien appuyer la ministre chargée de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui est une fervente défenseur du texte. Il nous donne des outils juridiques maîtrisés, dit-elle, pour affirmer que chacun est libre de contester la politique du gouvernement de Netanyahou, de la critiquer même le plus fort possible, et elle assène aussi, Madame Berger, sur le fond, tous les obstacles juridiques ont été levés par l'avis du Conseil d'État, donc il n'y a aucune atteinte à la liberté d'expression, c'est ce qu'elle dit. En attendant, pas suffisamment convaincu par cette version réécrite avec l'avis du Conseil d'État, le groupe Les Démocrates, pourtant dans la majorité, ne devrait pas non plus soutenir la copie. Hein. On ne votera pas ce texte, dit la modem Perrine Goulet. En fonction des débats, soit on s'abstiendra, soit on votera contre. Alors, sur le papier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour que ce texte soit voté. Tout comme une probable partie du groupe Liot, voilà. Est-ce qu'il faudrait vraiment discuter de cette loi tout de suite dans ces conditions? On est loin d'en être certain, dit son président. Un succès d'autant plus incertain que la copie, épaulée par Horizon et LR, n'est pas certaine de bénéficier des voix du RN et de ses 121 membres qui sont encore hésitants sur leur position de groupe. L'intention est bonne, mais il y a encore des choses mal rédigées, s'interroge le RN Bruno Bild. Voilà. Du côté du RN, ils ont constaté une forte levée de boucliers en circonscription. Au final, le RN devrait rejeter l'article 1 du texte, mais se montre plutôt favorable au reste de la copie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'Assemblée ? On n'a pas terminé le débat, je voulais juste que vous ayez les faits. Après un passage dans l'hémicycle, aujourd'hui et demain, à la veille de la suspension des travaux, la semaine prochaine à cause de vacances, l'ensemble du texte sera finalement soumis à un vote solennel, ce sera le 5 mai, donc c'est dans 20 jours, 3 semaines, lequel, appui déjà Aurore Berger, permettra d'y voir plus clair à suivre. Voilà. Donc, ça, c'est juste les faits basiques. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin avec un papier que je trouve intéressant, avec deux avocats qui donnent leur avis là-dessus en disant « Cette loi, c'est une mauvaise solution. Bon, c'est pas ça qu'il faut. Mais il y a un vrai problème derrière dont on devrait s'occuper. » Allez, je vous lis avant d'aller sur ce truc parce que je sais que vous avez des choses à me dire. Me colle en una fiesta me dit à propos de la pétition écartée par la commission des lois. Cette pétition a été écartée au prétexte que le débat serait redondant. Dans ce cas, cet outil est mal pensé. Il génère de la frustration pour les citoyens qui la signent et qui la voient rejeter, l'impression d'une impuissance citoyenne. Tu as complètement raison. C'est ce que me dit Werner, et vous avez raison. C'est dingue, on critique les faibles participations aux élections, le manque d'intérêt pour la vie politique, l'appréhension envers les politiciens, et quand il y a un engagement pour ou contre, les politiciens le mettent sous le tapis, c'est incompréhensible. Tu as raison. Arrête Max, t'es bête. Je vous lis. Je vous lis. C'est la question que pose Hyster. Comment est-ce possible que dans une démocratie, que la deuxième plus grosse pétition signée de l'histoire ne génère pas un débat des élus? C'est ridicule. Je peux pas vous donner tort. Je suis en bas du chat. Le raid de fou, les amis de Naotech Team nous raid. La chaîne Twitch et YouTube qui nous parle de l'actualité de la tech. Là, c'est tous les jours. Merci beaucoup pour le raid. Je ne sais pas quelles sont les news tech. De quoi vous avez parlé ce matin, mais ça m'intéresse. Alors, Souris Kite est allé voir. Donc là, le seuil qu'il faut dépasser pour que une pétition déposée sur le site de l'Assemblée soit débattue, puisse être éventuellement débattue à l'Assemblée, c'est 500 000 signatures. Mais on va aller plus loin, on va lire un papier qui va plus loin. Des guerres et de la technologie? Excellent. On parle des guerres des guerres de robots en Ukraine. J'ai vu un papier là-dessus, ouais. Ah, j'aurais pu vous en parler ce matin. Il y avait un papier ce matin sur le fait que l'armée ukrainienne revendique avoir pris une position, là tout récemment, sans indiquer vraiment où, mais une position uniquement avec des drones et des robots. Voilà. Sans aucun humain sur place. Alors, petite position, peut-être pas forcément avec beaucoup de soldats russes sur place, mais qui se sont rendus malgré tout. Donc, il y a une espèce d'image là que j'ai, hein, où j'ai imaginé des soldats russes se rendre à des robots, à des machines de l'armée ukrainienne. Effectivement, très intéressant. Alors, lisons ce deuxième papier sur la loi Yadan. Alors, c'est plus qu'un. C'est pas un papier, c'est pas un article, c'est une tribune. Ce sont deux avocats. Cécile Ostier et Cédric Usan-Sarano qui prennent la plume dans Libération et Libération a estimé cette tribune suffisamment intéressante pour la publier. Sinfo me dit, désolé, j'ai pas bien compris ce qu'est la loi Yadan, est-ce que tu peux réexpliquer? Je pense que dans l'article là tu vas avoir des réponses à tes questions. Let's go. Et ces deux avocats disent quoi? Ils disent cette loi c'est une mauvaise loi, mais derrière il y a un vrai problème, voilà, dont il faut parler aussi et contre lequel il faudra trouver une solution. Voilà. Et je spoil un petit peu, c'est ceux, parce qu'ils existent, voilà, qui se servent de la cause palestinienne pour masquer des propos antisémites. On y va. Maintenant que j'ai spoilé, je vous explique la réflexion. Si la gauche s'apprête légitimement à voter ce jeudi à l'Assemblée contre cette proposition de loi dangereuse, inefficace et contre-productive, elle doit aussi prendre en compte l'offensive d'une ligne idéologique, on ne parle pas forcément de beaucoup de gens d'ailleurs, qui présente le terrorisme comme de la résistance. Alerte les avocats Cécile Ostier et Cédric Usan-Sarano. Prenons le temps, lisons. La proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan visant donc à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme suscite actuellement des débats passionnés. Elle a donné lieu à une pétition ayant recueilli plus de 700 000 signatures en quelques jours, ce qui est énorme. Quel autre sujet, décidément, pourrait-il donner lieu à une mobilisation si fulgurante? Voilà. Ce fait politique impose une attention redoublée. Contrairement à certaines analyses simplificatrices, ce texte ne prohibe pas la critique d'Israël ni de sa politique, mais il tend bien à cibler certains discours qui l'accompagnent. Or, dans un contexte géopolitique inflammable où il est vrai certains acteurs ou commentateurs politiques cherchent à instrumentaliser les questions d'antisémitisme pour tenter de discréditer tout discours critique de la politique israélienne, il est légitime de craindre qu'une telle loi puisse être utilisée ou détournée à des fins de censure ou d'intimidation. Si la proposition nous paraît aussi dangereuse, elle serait aussi inefficace et contre-productive. Dangereuse d'abord. Étendre, ce sont deux avocats qui parlent, merci Potali, étendre les incriminations pénales à certains discours, même virulents, constitue une pente périlleuse pour l'état de droit. La proposition de loi, singulièrement à travers la notion de provocation indirecte et à l'apologie de terrorisme, est floue. Un texte ne peut pas être flou, en fait. Surtout sur un sujet comme celui-ci. Et comme telle porteuse de risques d'arbitraire. Ceux, et nous en faisons partie, qui veulent combattre les formes les plus radicales et même haineuses d'antisionisme, y compris violentes de l'existence même de l'État Israël, doivent le faire sur le terrain politique et des idées, et non pas dans les prétoires, dans les tribunaux, sauf en présence de propos ouvertement antisémites. Voilà. Mais dans ce cas, les lois actuelles suffisent. Point. Voilà. Donc dangereuse, inefficace ensuite, disent les avocats. Dans un état de droit, la présomption d'innocence prévaut. Le doute profite à l'accusé, la loi pénale est d'interprétation stricte. Or, ceux qui manient le double langage antisémite sous couvert de critique d'Israël, ceux-là savent procéder par insinuation difficilement réductible à une infraction caractérisée. L'échec des poursuites pour apologie du terrorisme après le 7 octobre l'a bien illustré. Point. Donc, dangereuse, inefficace et enfin contre-productive. Déplacer le débat sur le terrain judiciaire offre aux propagandistes une double benne, se poser en victime d'un système qui cherchera à les faire taire, puis brandir l'absence de condamnation comme un brevet de bonne foi et de validation de leur thèse. Alors qu'un propos peut ne pas tomber sous le coup de la loi pénale, tout en restant empreinte de connotations antisémites et donc moralement condamnables. Alors, ça, c'est tout le mal que ces deux avocats pensent de cette loi. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils disent, merci Autism, merci beaucoup, Pour autant, si on a donc raison de s'opposer à cette proposition de loi, on aurait tort de refuser de voir la réalité qu'elle prétend mal combattre et se dispenser commodément d'affronter cette réalité. C'est là que nous nous séparons de nombre de ces contempteurs, de ces critiques, qui dénoncent le texte mais sans jamais se demander « N'y a-t-il pas quand même un problème avec une certaine forme ?» Donc là, je prends le temps. « N'y aurait-il pas un problème avec une certaine forme d'antisionisme qui masquerait de l'antisémitisme ?» L'antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission et même le droit, et même le devoir, d'être... Attends, alors là, c'est une citation qu'il faut remettre dans son contexte, vous allez comprendre. Écoutez bien cette citation. L'antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme justifiés, mis enfin à la portée de tous, il est la permission d'être démocratiquement antisémite, et si les juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux, il ne serait plus nécessaire de les plaindre, ils auraient mérité leur sort. C'est une citation de 1967. Vladimir Yankelevitch. 60 ans plus tard, l'acuité du diagnostic reste d'une actualité brûlante. Vous voyez que ce débat, il est très vieux. Ce débat, il est très vieux. Ce n'est pas là la parole d'un soutien de Netanyahou, ni d'un commentateur de CNews, mais d'un grand philosophe humaniste, qui est Yankelevitch, pour ceux qui ne le connaissent pas. Qu'on fasse donc au moins crédit d'une évidence, le problème lié au couple antisionisme slash antisémitisme est sérieux et ancien. Or, l'angle mort de toute réflexion sur ce point est aussi inquiétant que la proposition de loi elle-même. Donc en fait, ce que disent les deux avocats, vous êtes d'accord ou pas avec ça d'ailleurs, c'est la loi est problématique, mais ne pas dire que derrière cette loi problématique, il y a quand même un problème, ça c'est une erreur. Toute critique, même virulente, d'Israël n'est pas antisémite. Et heureusement, c'est une évidence qu'il faut redire. Mais c'est un fait. L'antisémitisme actuel s'exprime trop souvent au nom de l'antisionisme, à la fois carburant et masque moralement commode. Nouveau lexique, nouvelle rhétorique, mais pour véhiculer des stéréotypes ancestraux. Les symptômes sont nombreux, le terme sioniste, visant de manière péjorative des personnes en raison de leur identité juive, alors que par exemple elles n'auraient aucune complaisance envers la politique du gouvernement israélien. Et le sioniste devenu un substitut pratique pour certains aux sales juifs. Des militants du collectif Golem, mouvement de gauche luttant contre l'antisémitisme et critiquant vigoureusement la politique du gouvernement Netanyahou, se font agresser à l'université de Nanterre au cri de « dehors, les sionistes génocidaires », alors qu'ils participent à une journée de lutte contre toutes les formes de racisme. L'organisation par les étudiants de la Sorbonne d'un sondage « juifs pour ou contre », une liste de génocidaires ciblant des personnalités juives ou d'origine juive jetées en pâture par un professeur lyonnais, tout cela, pour les deux avocats qui parlent ici, se passe de commentaires. Les cris de joie d'étudiants occidentaux au lendemain même du 7 octobre, donc les attentats du Hamas, clamant « We are all Hamas », sous couvert de solidarité avec le peuple palestinien, sont l'explosion d'une pulsion antisémite, morbide, d'autant plus glaçante, qu'elle s'exprime au nom de la bonne cause, comme l'a analysé la sociologue Eva Illouz. Cette dérive-là ne date pas d'hier, de Garodi à Soral et Dieudonné, jusqu'à l'utilisation de l'iconographie antisémite du Troisième Reich dans une certaine propagande pro-palestinienne. Tout cela est connu. À qui veut bien voir ? À qui veut bien voir ? Ce nouvel antisémitisme est d'autant plus pernicieux qu'il prospère en particulier auprès de la jeunesse sur la légitime indignation qu'indignent les actes et la politique du gouvernement Netanyahou. Il s'en nourrit et infuse dans une partie de la société avec des dommages collatéraux bien réels pour les personnes qui les subissent. Comme il y a des sionistes, il y a des antisionismes et différents courants au sein de la cause palestinienne. Celui dont nous parlons ici, qualifions-le d'antisionisme Hamas. Donc les deux auteurs parlent d'un antisionisme en particulier, pas de l'antisionisme en général. L'antisionisme qu'ils qualifient d'antisionisme Hamas ou des mollahs, qu'a incarné, par exemple, jusqu'à la caricature, l'ancien président iranien Ahmadinejad, ouvertement antisémite et négationniste. Or, sur fond d'aggravation de l'occupation violente en Cisjordanie et de la destruction de Gaza, c'est-à-dire les monstruosités que l'armée israélienne commet à Gaza et les colons juifs dans les colonies juives illégales en Cisjordanie, sur fond donc de tout cela, c'est cette frange-là qui cherche à préempter la cause palestinienne et à devenir hégémonique en pratiquant le terrorisme intellectuel. Si vous n'êtes pas sur notre ligne, alors vous êtes des sionistes génocidaires. Et en promouvant insidieusement, voire ouvertement, l'antisémitisme. Alors, être contre la proposition de loi Yadan, d'accord, disent-ils, mais il faut aussi être capable de combattre ces dérives. Or, à cette aune, certaines formules de la pétition contre la proposition de loi, comme ses sous-jacents, sont troublantes et posent question. On a toujours pu et on peut évidemment critiquer Israël en France. Manifestations, articles, tribunes, discours politiques. Les critiques d'Israël, on les compte par centaines depuis l'engrenage de la violence déclenchée par le 7 octobre. Ce que certains promoteurs de la pétition semblent chercher à protéger, c'est autre chose, estiment ses avocats. Ils affirment que la légitimité sans réserve de la résistance palestinienne contre l'occupant par tous les moyens nécessaires. Et là, les avocats posent cette question. Est-ce que le 7 octobre serait justifiable? Ce serait alors accréditer la doctrine du Hamas. Les commentaires ouvertement antisémites qui accompagnent cette pétition sur les réseaux et les morts à Israël et vive l'Iran devraient interpeller les signataires de bonne foi, car il y en a beaucoup évidemment. Il est trop, je lis l'article et après je vous lis, facile d'ignorer ces signaux. Ne soyons pas naïfs. Au nom de la dénonciation légitime de la proposition de loi, prenons garde à une offensive d'une ligne idéologique qui voudrait présenter le terrorisme comme de la résistance, qui glorifie les martyrs et s'accommode fort bien des mollahs. À travers sa complaisance pour l'antisémitisme, c'est une idéologie eschatologique, essentialiste, profondément anti-lumière qui s'exprime. Si elle ne veut pas perdre son âme, la gauche doit mener ce combat. Et si ce n'est pas dans les prétoires, c'est sur le terrain intellectuel, politique et éthique. Par le débat, mais aussi en ayant le courage de ne pas trembler devant certains candidats qui s'arrogent le monopole de la cause palestinienne ou de l'antifascisme, comme Léon Blum a su résister courageusement aux candidats staliniens. On peut critiquer sans concession la politique israélienne, tout en mettant au jour les tropes antisémites véhiculées non seulement par l'extrême droite, mais aussi par une partie de la gauche, et en faisant œuvre de pédagogie et de clarté, en particulier auprès de la jeunesse, comme le fait avec courage et intelligence le formateur à la lutte contre l'antisémitisme Jonas Pardo, auteur d'un petit manuel de lutte contre l'antisémitisme. À l'image d'un Jaurès lors de l'affaire Dreyfus prenant grâce à Émile Zola la mesure de l'enjeu pour la République et pour le socialisme du combat contre l'antisémitisme, faire défaut par cécité ou facilité, ce serait laisser libre cours aux instrumentalisations de l'extrême droite qui font le jeu des fauteurs de haine de tous bords. Alors si les partis de gauche s'apprêtent légitimement à voter contre la proposition de loi, posons la question, au-delà de cette opposition juridique, quelle stratégie concrète pour demain ensemble combattre et extirper ce poison antisémite bien réel? Et je vous lis après cette tribune dans Libération. Allez, c'est parti. Je vois que cet article provoque énormément de débats et de colère. C'était très intéressant. Alors, Clément a raison. Mais tu dis par exemple, Clément Viktorovitch en a parlé, il préfère ne pas utiliser le terme d'antisionisme car il est flou. Et vous reconnaîtrez avec moi que pourtant, ce terme d'antisioniste, il est utilisé par beaucoup de personnes, y compris régulièrement, ici dans ce chat. Voilà. Ce terme d'antisioniste est flou, c'est ce que je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, parce qu'il renvoie à deux choses différentes, voilà, selon qu'on accepte le terme ancien historique de l'antisionisme et le terme plus moderne, notamment utilisé par les personnes très sensibles à la cause palestinienne, et vous avez raison de le l'être. Voilà, et c'est un truc qu'on va développer, mais c'est un truc que je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et je vois qu'avec Clément, on est sur la même ligne. Clément en a parlé, il préfère ne pas utiliser le terme d'antisionisme car il est flou. Voilà, et peut avoir plusieurs sens. Et le problème, c'est que quand les gens utilisent le même mot mais pour dire des choses différentes, c'est un enfer. C'est comme ça que naissent les débats les plus violents et les plus virulents. Les gens ne parlent pas de la même chose. Voilà. Et avec Clément, on est complètement d'accord. Et historiquement, même Clément a été un camouflage d'antisémitisme à la Soral ou Dieudonné. Voilà. Ce que dit aussi l'article. Le mieux étant juste de préciser sa pensée, même si c'est plus long, sur Twitch on a le temps, en disant par exemple, ou lui dire je suis antisioniste, je suis contre la politique génocidaire de Netanyahou et l'idée de grand Israël telle que voulue par le gouvernement. Voilà. Alors que, donc ça peut être une définition de l'antisionisme, alors qu'il y a une autre définition de l'antisionisme qui est, moi je veux que l'État d'Israël disparaisse. C'est long? Ouais. Mais on n'est pas sur Twitter ici, on n'est pas sur TikTok. Et la qualité du débat Et la notion même de république et de démocratie, elle ne vaut que si à un moment on décide de prendre le temps de se parler et pas de se réfugier derrière des mots et de pas les, et de pas les expliciter. Clément a totalement raison. Et c'est un truc que je vous ai déjà expliqué des milliers de fois, mais vous n'êtes pas forcément d'être là, obligé d'être là à chaque live. Quand quelqu'un utilise le mot antisionisme aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un antisionisme qui renvoie à la définition historique du sionisme. Le sionisme, c'est ce mouvement politique et intellectuel qui a mené à la création de l'État hébreu. Voilà. Est-ce que être antisioniste, c'est vouloir la disparition de l'État d'Israël, hein? Ou est-ce que l'antisionisme, et c'est l'acceptation, c'est la définition moderne utilisée par beaucoup de gens qui sont opposés à ce que l'État hébreu, l'armée israélienne et le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou font vivre au peuple palestinien, c'est l'opposition, et qui peut être virulente, aux exactions du régime israélien contre les Palestiniens. Voilà. Voilà. Par exemple, CQFD, Goswawa, dit « Moi, je pense que c'est plutôt la fin des colons et du gouvernement génocidaire. » C'est exactement ce que dit Clément Viktorovitch. En fait, on ne devrait plus utiliser ce terme, parce qu'il renvoie à deux choses différentes. Le problème, nous disent les avocats, c'est qu'il y en a qui jouent justement sur flou. La loi est floue, mais parfois les mots sont flous aussi. Voilà. Je vous lis. On a le droit de dire islamique et de tout mélanger arabe, musulman, islam, mais pour du concret comme l'antisionisme, ça bégaye. Ici, on ne mélange pas Burberry, et tu devrais le savoir. Voilà. Si tu fais référence à l'extrême droite française, tu t'es trompé de stream. Voilà, c'est un peu ce dont on parle aussi. Jacek nous dit dans le chat, mon meilleur ami juif n'accepte pas la politique d'Israël, voilà, mais en revanche, se prend régulièrement des insultes anti-juifs. Il n'est pas et il est là le problème, les gens qui n'arrivent pas à séparer la religion, voilà, ou la nationalité de l'État israélien. En fait, c'est ça qu'il faut pas masquer, en fait. Après, à mon sens, hein, c'est impossible à mesurer, mais les gens qui se servent du combat pour la et légitime pour la cause palestinienne, sous couvert d'antisémitisme, ces gens sont à mon sens assez peu nombreux, quoi. Mais c'est là où il faut être clair sur les mots, quoi. Je vous lis. Donc ce projet de loi n'a aucun intérêt et on a raison de s'inquiéter de son utilisation abusive. Mais personne ne dit autre chose ici, hein. Personne ne dit autre chose ici. Hein. Personne ne défend ce texte, hein, qui est ni fait ni à faire. D'ailleurs, pas même les deux auteurs de cette tribune dans Libération, hein, qui disent clairement que ce texte n'est ni fait ni à faire. Je vous lis. L'article dit bien qu'il existe plutôt plusieurs antisionismes. Tout à fait. Mais l'analyse de Clément, elle est intéressante. Clément Viktorovitch, il dit qu'on ne devrait plus utiliser ce mot, en fait. Voilà. On devrait dire, les gens, plutôt que dire je suis antisioniste, devraient dire exactement ce qu'ils mettent dessous, quoi. Est-ce qu'ils veulent la suppression de l'État d'Israël? Est-ce qu'ils veulent la disparition de l'État d'Israël? Est-ce qu'ils estiment que les Israéliens, les Juifs, n'ont pas le droit de vivre dans un pays, hein, après des siècles de pogroms, après la solution finale nazie, Voilà. Est-ce qu'ils ont un ressentiment personnel sur le peuple juif, ou est-ce qu'ils condamnent la politique d'un État, d'un gouvernement d'extrême droite, je vous le rappelle, vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis aussi des pays de la région. C'est deux choses qui ne sont pas la même chose. Quand Burberry dit « je suis antisioniste », c'est-à-dire je veux l'arrêt du génocide en cours, qui peut s'opposer à toi? Qui peut s'opposer à toi? Quel humaniste peut s'opposer à toi? Yadam me dit « oui, Sied, mais qui ici défend le texte ?» Encore une fois, le débat n'est pas là, personne ne défend ce texte. Y compris dans les rangs du parti de Madame Yadam, il y a des voix qui s'élèvent pour dire ce texte est mal fagoté. Et d'ailleurs, le flou dans les deux camps, d'ailleurs, on joue sur le flou. C'est-à-dire que le gouvernement israélien, lui, il entretient volontairement la même confusion en disant que toute critique contre Israël, toute critique contre le gouvernement, et de l'antisémitisme, ce qui évidemment est faux. Vous voyez, en fait, c'est dans les deux camps on se sert du flou. C'est là où justement il faut être très très précis sur ce qu'on veut dire. Et c'est pour ça que cette loi est mauvaise, parce que justement cette loi n'est pas précise. Et parfois, très modestement, moi je dis attention parfois quand, sans s'en rendre compte, on s'empare de mots de militants, de mots politiques mis en avant par des élus ou des formations politiques qui justement cherchent à parfois simplifier leur message pour qu'ils portent, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient bien compris. Hein, c'est ce qu'on appelle un slogan. Et un slogan ne résume jamais la complexité d'une pensée, hein. Et la violence politique, elle naît notamment de ça, de l'opposition slogan contre slogan, quand on veut pas se pencher sur la subtilité parfois de la pensée, quoi. C'est ce qu'on essaye modestement ici de faire, c'est de ne pas s'opposer slogan contre slogan, mais essayer de comprendre parfois ce qu'il y a dans la pensée de ceux qui ne pensent pas comme toi. Salut Boubou. En tout cas, bravo pour ton courage à évoquer un sujet aussi volcanique. Oh, bah, c'est absolument pas un courage, c'est juste que tu peux pas faire l'impasse sur un sujet comme celui-ci. Il est extrêmement présent et dominant dans l'actualité du moment. Et en fait, ce serait honteux que de le passer sous silence, quoi. Même si je sais que c'est un sujet compliqué, qu'on a abordé des centaines de fois en 5 ans ici. Je vous lis, je vous lis. Merci Solarliner. Pendant qu'on joue sur les mots, me dit Thanos, des Palestiniens sont assassinés, des Libanais perdent leurs terres. Alors je ne pense pas que le vote ou l'absence de vote de cette loi, hélas, changera quelque chose au sort des Palestiniens et des Libanais. Je pense que tu as conscience du raccourci. Et je ne pense pas que les slogans que nous tiendrons ici dans ce chat changeront quoi que ce soit au sort des Palestiniens et au sort des Libanais. En revanche, le fait de parler du sort des Palestiniens et du sort des Libanais, ce que nous faisons ici, sur cette chaîne, si tu la connais, tu le sais. Ça, oui. Pour que les gens sachent que les consciences évoluent. Voilà. Et c'est ce travail de fourmi, c'est un travail quotidien, Hein. Moi, le sujet du Proche-Orient, ça fait 30 ans que j'en parle. Voilà. Et on le réglera pas dans ce stream. Voilà, exactement. Je ne pense pas que Netanyahou lise ce chat. C'est dommage d'ailleurs, mais. Alors c'est. Moi, bon, vous savez que je suis un peu pessimiste là-dessus. J'ai déjà raconté cette anecdote quand j'étais jeune journaliste, c'est-à-dire littéralement il y a 30 ans. Je suis allé sur place. Je suis allé. Je parlais du proche. C'était à l'époque où on parlait du processus de paix israélo-palestinien, parce qu'à une époque, on a rêvé d'une paix dans la région, du temps de Shimon Peres, de Yasser Arafat, tout ça, des accords d'Oslo. Et puis ça s'est abîmé, et les camps les partis et les camps de la haine et de la guerre ont fini par avoir la peau de ce processus de paix, et on en parlait beaucoup dans les journaux, ouais, notamment dans mes petits JT que je présentais moi à l'époque. Et donc je suis allé sur place pour essayer de comprendre, à titre personnel, pas en tant que journaliste. Et je suis allé en Israël, je suis allé dans les territoires palestiniens, je suis allé en Cisjordanie, et j'ai rencontré des Israéliens, et j'ai rencontré des Palestiniens, pour essayer de comprendre, en fait. Et pardon, hein, ce n'est qu'un regard, il est forcément parcellaire et approximatif et très subjectif, c'est qu'une petite expérience. Mais les gens que j'ai rencontrés là-bas, hein, je parle pas des politiques, je ne suis pas allé voir rencontrer des élus, je suis allé voir j'ai rencontré des citoyens palestiniens empêchés dans leur vie de tous les jours, déjà il y a 30 ans, de circuler, d'aller où ils voulaient, de travailler comme ils voulaient, d'étudier comme ils voulaient. C'était il y a 30 ans, hein. C'est pas nouveau. Et des Israéliens, à l'époque, il y avait beaucoup d'attentats, et notamment d'attentats à la bombe en Israël, aux arrêts de bus, dans les terrasses de café. C'était cette période-là. Et moi, je rencontrais en gros des Israéliens, des jeunes Israéliens, des jeunes Palestiniens. Des jeunes Palestiniens qui nous disaient, il n'y a pas d'horizon. Il n'y a pas d'avenir, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on ne peut pas se déplacer. Voilà. On est sur un territoire où on veut vivre, mais il n'y a pas d'avenir. Et du côté, il y avait des jeunes Israéliens qui disaient, nous, on veut vivre en sécurité, on veut vivre en paix, on veut avoir un endroit où vivre, voilà, en sécurité. Vous avez deux légitimités, deux camps persuadés d'avoir raison, avec deux légitimités qui s'opposent. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. La politique du gouvernement israélien Netanyahou ne représente sans doute pas les idées des jeunes Israéliens que j'ai pu rencontrer à l'époque. Vous voyez? C'est pas ça que je dis. Mais disons que ce conflit ne se résoudra pas en opposant des slogans, quoi. Hein. Ça, j'en suis persuadé. À suivre les élections en Israël dans quelques mois, voilà. Voir si l'extrême droite avec Netanyahou continue de garder le pouvoir, si quelque chose peut venir d'un changement de majorité, voilà. Et voir si, comme beaucoup le pensent, la solution ne viendra pas de la communauté internationale, quoi. Et un jour, des pressions qu'il faudra mettre sur la région, hein. Mais avec Trump en président américain, ça aussi, pour l'instant, c'est totalement illusoire. On a l'occasion d'en reparler, on en parle pas tous les jours, mais presque depuis 5 ans. Donc on va pas résoudre ce problème, on l'a pas résolu hier et on ne le résoudra pas demain. Merci en tout cas de votre attention et de la qualité du chat. Parlons d'environnement, parlons d'écologie, parlons de l'air pollué que nous respirons, et parlons des ZFE, des zones à faible émission, hein, qui sont sur le point de disparaître, à moins que. Voilà, là aussi c'est un petit peu subtil. C'est parti pour ce sujet. Alors, comment j'ai appelé ça? Les ZFE, zones à faible émission, enterrées ou pas? Alors, plusieurs articles dans Le Monde, dans Libération et dans L'Opinion. On commence par Le Monde. Alors, l'actu d'abord, les zones à faible émission enterrées par l'Assemblée, ça vous avez peut-être entendu parler. Les députés ont rejeté un compromis qui aurait laissé la décision aux collectivités locales, hein, de maintenir les ZFE et adopté la loi de simplification incluant l'abrogation des ZFE. Donc là, au moment où on parle, les ZFE, les zones à faible émission, hein, décidé dans certaines villes pour réduire la pollution des véhicules dans le cœur des villes, c'est fini. Okay. Encore raté. En proposant un amendement de compromis qui laissait aux collectivités locales le libre choix de maintenir ou de supprimer les ZFE, le gouvernement pensait pouvoir sauver in extremis l'un des marqueurs environnementaux du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque les ZFE, c'est Macron, et des marqueurs environnementaux sous Macron, il n'y en a pas eu beaucoup. Hélas, mardi, les députés ont non seulement rejeté l'amendement du gouvernement, mais ils ont voté la loi de simplification de la vie économique qui abroge les ZFE. Nous avons remporté une immense victoire contre l'écologie punitive, se félicite le député RN du Gard Pierre Meurin, donc l'écologie punitive des ZFE, voilà, qui mène la fronde depuis 2022 contre les ZFE, accusé de favoriser la ségrégation sociale. Vous savez, avec cet argument de, en gros, comme on oblige, qu'on interdit certains véhicules, les plus anciens, les plus polluants, à ne pas aller au cœur des villes, eh bien, on frappe les plus démunis, les plus pauvres. Même accent triomphal du côté de la puissance association 40 millions d'automobilistes, hein, qui est le lobby de la bagnole, et de son président, Philippe Nozière, c'est une victoire pour la démocratie. Et pour tous ceux qui refusent d'être exclus de nos centres-villes, faute de moyens, vous connaissez l'argument. Les sénateurs devront maintenant confirmer ce vote mercredi, c'était hier ça. Alors, parce que Le Monde est paru, ils n'avaient pas encore l'info. On va aller voir si le Sénat l'a voté aussi. Ça, c'est un article d'hier. Le Monde va sortir en début d'après-midi là. Qu'est-ce qu'a fait le Sénat? Voilà. Le Sénat adopte à son tour la loi de simplification entérinant la suppression de la ZFE. MMG, tu as raison, ça a été entériné également au Sénat. On a vérifié l'info, on peut continuer. Alors, pour ceux qui ne comprennent absolument pas de quoi on parle, contextualisons. Présentée comme une dynamique irréversible lors de leur inauguration fin 2018 par Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, les ZFE visaient initialement à restreindre progressivement la circulation des véhicules les plus polluants dans les villes soumises à des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air, donc déjà pas toutes les villes, mais celles où l'air était plus pollué, comme Paris, Lyon ou Marseille. La loi Climat et Résilience de 2021 a ensuite prévu de les étendre à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants à partir du 1er janvier 2025, mais dans les faits, à ce jour, seules 25 villes, 25 métropoles, ce qui n'est pas beaucoup, ont déployé ces ZFE. Les ZFE ne figuraient pas dans le projet de loi initial sur la simplification de la vie économique qui vient d'être voté. Leur suppression a été ajoutée par des amendements du RN et des Républicains, puis votée en CMP, en commission mixte paritaire. Programmé le 27 janvier, le vote définitif du texte en séance avait été reporté après les municipales, le gouvernement espérant trouver un compromis. Puisque vous avez compris que c'est un des rares marqueurs écologistes des deux quinquennats Macron. Mardi, ce compromis n'a pas seulement été rejeté par l'extrême droite et les Républicains, mais aussi par les députés LFI écologistes pour des motifs différents. Donc, ils ont tous repoussé l'amendement, le compromis, mais pour des raisons totalement opposées. Nous sommes pour les ZFE, mais cet amendement revient à les supprimer sans l'assumer, a justifié la députée écologiste de la Vienne, Lisa Bellucco, et le socialiste Gérard Leuzel a dénoncé la lâcheté, le cynisme total du gouvernement qui se défausse sur les collectivités locales. Et maintenant sur le Conseil constitutionnel, et ça on va en parler tout à l'heure, pour sauver un dispositif dont il n'a jamais fait la pédagogie, ni pris les mesures d'accompagnement pour le rendre socialement acceptable. Et là on est sur un truc, et là on ralentit un petit peu, parce que cette critique contre les ZFE qui est d'exclure les moins riches des centres-villes, en tout cas dans leurs déplacements, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Voilà. Et ce que cet élu socialiste dénonce, c'est que cette ZFE n'a peut-être pas été accompagnée par des mesures d'accompagnement, hein, pour les moins riches, pour rendre cette mesure écologique acceptable. Au sein du gouvernement, comme chez les députés macronistes, on répète que l'article de suppression des ZFE sera en fait censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Qu'est-ce que c'est un cavalier législatif ? C'est une partie du texte qui n'a rien à voir avec le schmilblick. On dit le seul ? On dit le seul. Ok. Voilà. Et ça, c'est ce que dit l'opinion aussi dans l'article qu'on verra tout à l'heure en disant « Vous êtes une belle... » L'opinion qu'on lira tout à l'heure nous dit « Vous êtes une belle bande d'hypocrites, les politiques. Hein. » Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel va censurer ce truc. Et tous ceux qui ont voté ce texte en disant « Vous avez vu, on a eu la peau du ZFE. Hein. » On a eu la peau du ZFE. On est vraiment des élus qui bossent. Et tous ceux qui s'y sont opposés aussi en tribune en disant c'était un scandale, vous êtes des tartuffes, parce qu'en fait le Conseil constitutionnel va censurer et ce débat il sert à rien. Bon, peut-être que l'opinion se trompe, mais on verra ça. Parce qu'effectivement, le Conseil constitutionnel va être saisi sur le sujet. Voilà. Et ça, le député socialiste Le Sol le dénonce en faisant porter au Conseil constitutionnel une responsabilité politique qui n'est pas la sienne. Le gouvernement abîme notre démocratie et notre constitution. Le député socialiste redoute la réaction des opposants aux ZFE, parce qu'aujourd'hui, les soutiens de la disparition des ZFE, notamment les élus RN, pas seulement, mais notamment, là, dans les prochaines heures, vont se réjouir, bien sûr. Mais quand le Conseil constitutionnel va rendre sa décision en quelques semaines et éventuellement supprimer cette disposition, eh bien, les mêmes députés, notamment RN, se répondront en dénonçant le gouvernement des juges et la confiscation de la démocratie. L'association Respire, spécialisée dans la lutte contre la pollution de l'air, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, exhorte les députés qui se sont opposés au texte à saisir le Conseil. En supprimant les ZFE, l'Assemblée envoie un signal extrêmement grave, celui d'un abandon pur et simple de la santé publique au profit de considérations de court terme. Hein? Supprimer les ZFE ne supprimera pas les morts de la pollution de l'air, défend le socialiste Daniel Guiraud. Selon l'Agence Santé publique France, la pollution de l'air est à l'origine de 40 000 décès prématurés par an et de plusieurs dizaines de milliers de cas de maladies respiratoires. Asthme, pneumopathie, hein, cancer du poumon, maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, hypertension, ou métabolique, diabète de type 2. Dans une étude publiée fin janvier, Air Paris, donc pour la région parisienne, souligne que les ZFE ont fait la preuve de leur efficacité. L'organisme de surveillance de la qualité de l'air indique que 14% de la baisse des émissions d'oxyde d'azote émis principalement par le trafic routier et en particulier par les véhicules diesel sont attribuables au déploiement des ZFE à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Je suppose que Air Paris distingue entre, j'espère, sinon ça veut dire que le truc n'a aucun sens, entre l'évolution du parc automobile tel qu'il se caractérise en France avec de plus en plus de véhicules hybrides et électriques et la décision politique de la ZFE qui interdit certains véhicules les plus polluants d'accéder en centre-ville, enfin au cœur de la ville. Parce que si Air Paris ne distingue pas, ça veut dire qu'il mélange l'évolution actuelle naturelle du parc automobile, des gens qui, quoi qu'il arrive, ZFE ou pas, auraient acheté, pour ceux qui peuvent se le permettre, des véhicules thermiques hybrides ou électriques, mélange ça avec une décision politique. Quand il parle de 14% de baisse des émissions d'oxyde d'azote, j'espère qu'ils arrivent à distinguer, parce que s'ils le font pas, s'ils mélangent, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Air Paris a déjà estimé les conséquences de leur abandon au niveau de l'agglomération parisienne. D'ici à 2030, 40 000 franciliens supplémentaires seraient soumis à des niveaux de pollution en dioxyde d'azote non réglementaire et donc dangereux pour la santé. Moi qui suis sensible à ce niveau-là, au niveau des poumons, et sans doute en raison de la pollution, j'ai l'impression que ces dernières années, effectivement, ça s'était amélioré. Est-ce que ça s'est amélioré grâce à la ZFE ou est-ce que ça s'est amélioré parce que le parc automobile à Paris a énormément évolué et aujourd'hui, quasiment tous les taxis, par exemple, sont hybrides ou électriques, hein, pour ne parler que des taxis. Mais c'est vrai que si vous êtes parisien, vous savez que l'évolution du parc automobile, elle est étonnante, elle est surprenante. Moi j'ai l'impression qu'on respire mieux à Paris aujourd'hui, ce que confirment aussi les chiffres, par rapport à il y a quelques années. Pour Fanchon Barba-Lehmann, délégué général de l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, non seulement la suppression des ZFE constitue un recul sanitaire majeur pour des millions d'habitants, mais elle intervient à un moment particulièrement mal choisi. Alors là il y a un truc qui arrive du côté de l'Union Européenne qui pose question. La nouvelle directive européenne sur la qualité de l'air fixe des normes renforcées. On est actuellement hors des clous, nous, en France, les plus grosses villes, et le risque, c'est qu'avec la fin des ZFE, on le soit encore plus. Supprimer les ZFE aujourd'hui, c'est priver les collectivités de leur principal outil pour répondre à ces obligations et les exposer à des contentieux européens. Car la nouvelle directive européenne sur la qualité de l'air prévoit de diviser par deux la limite réglementaire pour le dioxyde d'azote, pardon. Selon les projections du gouvernement, ce serait plus seulement Paris ou Lyon qui dépasserait le seuil, mais désormais 26 agglomérations. Total qui irait même jusqu'à 40, si on prend en compte la valeur recommandée par l'OMS, qui doit s'appliquer au plus tard en 2050. En France, on est très très en retard par rapport à ce que souhaitent l'OMS et l'Union européenne. Rappelons que des dépassements des limites réglementaires ont déjà valu à l'État français trois condamnations successives, 2021, 2022, 2023, devant le Conseil d'État, et une astreinte totale record de 40 millions d'euros. Et là, vous avez deux choses qui arrivent. Un édito dans Libération de Thomas Legrand qui dit « Ce sont les démagogues de tous bords qui ont eu la peau de la ZFE. Voilà. » Et vous avez un article de l'Opinion qui dit « De toute façon, vous êtes des clowns. Le Conseil constitutionnel va annuler ce truc et les ZFE vont jamais sauter. » Allez, je vous lis avant d'enchaîner avec Libé. Quelle heure il est? Ça va, on a le temps, on est bien. Après, on parlera d'influenceurs et de littérature et de musique rap et de handicap aussi. Alors j'entends hein, Miss Bull qui me dit c'est pas la suppression des ZFE qu'il fallait, mais développer le nombre et le prix notamment des transports en commun, élargir, augmenter les aides pour changer de véhicule pour du moins polluant. J'entends, hein, mais ce que tu décris ici, ça implique des moyens publics. Ouais. Est-ce que l'état des finances publiques en France aujourd'hui permet massivement, je pose vraiment la question, hein, premier degré, de faire ce que tu décris, hein. La dette, par exemple, de la ville de Paris a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc là, par exemple, un programme d'investissement important au niveau des transports en commun supplémentaire à ce qu'il est aujourd'hui, ça a forcément un coût. Le soutien que tu évoques pour aider à changer de véhicule, ça aussi, c'est de l'argent public. Donc, personnellement, je trouve ça formidable. Est-ce qu'on en a les moyens? Je n'ai pas la réponse à cette question. On a une heure limite aujourd'hui? Non, on est bien. Il y a Joe qui passe au. Il y a Joe qui passe au studio tout à l'heure pour préparer des petits trucs. Tu n'as pas tort. Andy dit entre ça et continuer à débourser des sommes folles pour soigner des personnes qui chopent des cancers à cause de la pollution. C'est certain. Ce soir, on fait le react à l'audition de Frontières. Ouais, c'est pas impossible, Marceau, ouais. C'est pas impossible qu'on aille là-dessus, ouais. J'espère que c'est intéressant. Hein. Alors, lisons l'édito, peut-être, de Thomas Legrand sur cette question dans Libé qui dit que ce sont les démagogies qui ont eu la peau des ZFE. Les députés ont enterré mardi les zones à faible émission, l'acronyme devenu synonyme dans le débat public d'écologie punitive, imposée d'en haut par des technocrates boboïsés. Hein, c'est un truc que vous avez sûrement entendu, hein, l'écologie punitive imposée en haut de Paris par des technocrates boboïsés. En réalité, nous dit Thomas Legrand, ce vote dans le cadre de l'adoption du projet de loi de simplification de la vie économique est le résultat d'une campagne excessivement démagogique. Fruit d'une assemblée flemmarde. Parce qu'à regarder de plus près, ce projet visant à réduire la circulation des véhicules les plus polluants et émetteurs de particules fines dans les centres-villes est pour une fois disposition réfléchie. Une disposition réfléchie co-construite de façon tout ce qu'il y a de plus concerté et non pas imposée d'en haut. Là où elle est expérimentée, elle est socialement et sanitairement concluante. Son malheur est d'être facilement caricaturable par les déblatéreux réacs des plateaux de CNews. Monsieur Legrand a décidé de tirer à balles réelles. Et autres comptoirs cathodiques qui s'en donnent à cœur joie pour balancer leur vérité de bon sens enracinée. Effectivement, certains ont préchoté, on va parler de la Convention citoyenne pour le climat, puisque les ZFE, Foy Jaune a raison, ont été proposés à la base, pas par des énarques, pas par des hauts fonctionnaires boboisés, mais par la Convention citoyenne pour le climat. Le parcours de ce dispositif est symptomatique des névroses démocratiques françaises. Nées d'un processus vertueux, les ZFE sont mortes dans le chaos parlementaire. Des Français tirés au sort avaient travaillé des mois durant au sein de la Convention citoyenne pour le climat, 2019-2020. Le peuple éclairé se renseigne, s'informe, délibère, produit avec son intelligence collective des solutions soumises aux parlementaires. Parmi elles, l'idée selon laquelle, pour des raisons de santé publique qui sont vite apparues évidentes, il fallait bannir les véhicules les plus polluants des centres-villes. Cette nécessité avait ensuite été débattue au Sénat et à l'Assemblée. Seulement 35 députés s'y étaient opposés. Donc, en gros, Thomas Legrand dit ce sont les Français, via la Convention citoyenne pour le climat, qui ont pensé cette mesure. Ça n'a pas été imposé par le gouvernement, ça a été voté par le Parlement. Voilà. La loi permettait, loin des idées toutes faites, une grande adaptation aux réalités de terrain avec de multiples possibilités de dérogation décidées au plus près des habitants. Finalement, après des campagnes de dénigrement massif, notamment par l'activisme du riche écrivain Alexandre Jardin et son association Les Gueux, les parlementaires n'en ont plus voulu. Le gouvernement a bien tenté, avec son amendement à minima, d'en sauver un aspect en permettant aux villes qu'il souhaitait de les mettre en place quand même, ces ZFE, mais une alliance hétéroclite, faite de députés RN, LR, d'une poignée de macronistes anti-écolo-primaires, de 16 LFI, la jouant proche du peuple diesel et quelques écologistes rétifs au compromis, a jeté la dernière pelletée sur ce qu'un exemple de démocratie participative avait fait naître. Thomas Legrand, il en a gros sur la patate. Dommage, dit-il, car la réduction de la circulation en centre-ville sauve des dizaines de milliers de vies, comme le montrent des études à Paris, mais la caricature des dispositifs, même les plus négociables, est tellement facile à manier que les pourfendeurs de tout ce qui porte l'estampille écologie ont gagné. Réussir à faire passer une mesure élaborée selon des critères démocratiques novateurs, d'abord adopter la quasi-totalité des parlementaires, y compris des sénateurs qui représentent les territoires, pour une horrible décision venue de Paris. Voilà qui décrit bien l'évolution de la qualité du débat médiatique et politique entre 2021 et aujourd'hui. Le trumpisme fait de caricatures, de mensonges et d'anathèmes anti-progressistes et souvent anti-science a fortement progressé. Le bannissement des ZFE en est, selon Thomas Legrand, une manifestation. Eh ben, Thomas, il en a gros. Je vous lis. Oh, le cadmium, j'en ai parlé déjà à deux reprises, Strangelove. Le cadmium. Le scandale du cadmium, on en a déjà parlé deux fois, mais t'as tout ça en replay. Et on en reparlera sûrement. Après ou avant le lait, le cadmium. Idéalement, sans. Merci Ésotérique. Merci Ésotérique 73. Merci Autism. Merci Potali. Incroyable. Il propose quoi comme solution? De mettre les ZFE. Je crois que c'est clair. De toute façon, l'opinion, ici, va mettre tout le monde d'accord. L'opinion nous dit, vous êtes des tartuffes. Vous êtes des clowns. Parce que le truc va être censuré par le Conseil constitutionnel. Arrêtez de vous bourrer le moule, hein. Ça sert à rien. Alors, peut-être que l'opinion se trompe. La suppression des ZFE votée dans le projet de loi simplification devrait être censurée comme cavalier législatif, c'est-à-dire une part du texte qui n'a rien à voir avec le Schmilblick, par le Conseil constitutionnel. Voilà. C'est la certitude du journal, peut-être qu'il se trompe. Zone à faible émission, sitôt supprimée, sitôt réinstaurée. Voilà. Voilà, alors je vous lis pas tout le papier, mais la journaliste parle d'un jeu de dupes. Voilà. Hein, puisque plusieurs groupes déjà ont saisi le Conseil constitutionnel. Alors pourquoi tant de temps passé sur. Salut Harmonie. Pourquoi tant de temps passé sur les ZFE? C'est de la pure démagogie. Estime un avocat spécialiste du droit de l'environnement qui s'appelle Arnaud Gossement. Cela permet aux parlementaires concernés d'afficher auprès de leurs électeurs, de leur circonscription, un engagement de lutte contre les ZFE. Alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y aura rien derrière. Sinon, ils auraient au moins fait semblant de proposer des alternatives. Un jeu de dupes qui a permis à deux ou trois députés RN d'aller devant les caméras pour dire qu'ils avaient fait sauter les ZFE, tout ça pour ça. Déplore amer Stéphane Travert. Dans un mois, on en sera toujours au même point, à savoir les polémiques et le cadre juridique actuel, dit encore Arnaud Gosselin. Mais pour Gérard Le Seul, donc le député socialiste qu'on a cité tout à l'heure, cette représentation théâtrale scénique coûtera plus qu'une perte de temps. Dans 3 semaines, quand le Conseil constitutionnel aura retoqué ses dispositions, ceux qui hier ont crié victoire, on a tué le ZFE, diront c'est la République des juges qui nous empêche de faire notre politique et brise la démocratie. Vous voyez qu'il faut voter pour nous. Hein? Avec nous, ça. Non, hein? Ben, si, il y aura toujours le Conseil constitutionnel, mais peu importe. Mais pour un détail près, hein. Parfois, on est un peu flou. Il reproche donc au socle commun d'avoir laissé prospérer ces articles en sachant que le Conseil constitutionnel allait faire ensuite le sale boulot. Voilà. Or, la légitimité de cette haute juridiction est régulièrement attaquée, notamment par le RN, donc il ne faut pas leur donner des billes pour abîmer encore un peu plus nos institutions de régulation. Les ZFE qui bénéficient d'une deuxième corde de rappel, le droit européen, puisque la directive sur la qualité de l'air adoptée en 2008 impose aux États membres de contrôler la quantité de particules fines et de gaz à effet de serre dans les grandes agglomérations et d'agir si nécessaire avec les moyens de leur choix. Et en France, on est bien à la bourre là-dessus. Hein, on a reçu déjà plusieurs mises en demeure sur cette question. Je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Or, ces obligations européennes que déjà nous ne respectons pas, elles vont être plus contraignantes à partir de 2030, puisque les seuils ont été abaissés. Voilà. Donc voilà, l'opinion nous dit, en fait, rien ne change sur ce débat. Je vous lis et on enchaîne et on parle de littérature, ça va changer un petit peu. Lucie me dit, ce sujet est un peu hors sol pour certains. Dans mon quartier très populaire, la majorité des gens n'ont pas de voiture. Assez frustrant de revenir en arrière sur des sujets aussi importants, me dit Alpacalypse. J'ai failli perdre mon père à cause de problèmes de pollution en ville, de santé liée à la pollution. Rien ne justifie de rendre les gens malades. Je comprends bien l'idée, me dit Ellie Firetribe, mais je n'habite pas en centre-ville. Et j'ai pas les moyens de remplacer mon Camtar diesel de 2006. Asthmatique depuis 27 ans, me dit Tulu, à cause de la putain de pollution. J'habite dans les Yvelines, je n'ai rien contre cette loi, me dit Chassondor, mais le seul truc qui me dérange, c'est qu'après l'interdiction de rentrer dans Paris pour moi, il n'y a pas eu plus de parking près des gares. Au contraire, près de chez moi, il y a moins de place qu'avant. J'étais pas asthmatique avant de venir à Paris, me dit Erimos, puis 8 ans à Paris, et hop, asthmatique sévère. Idem, le breton que je suis est devenu, a eu des problèmes respiratoires à partir du moment où j'ai commencé à vivre à Paris. Il faut arrêter avec cette démagogie, dit Foie Jaune. Ceux qui utilisent principalement la bagnole en ville sont dans les classes supérieures, les pauvres ne se déplacent pas en voiture en ville. Comment tu peux savoir que c'est la pollution? Me dit Quick. Je suis asthmatique alors que je suis petit, alors que depuis que je suis petit, non. Je suis asthmatique depuis que je suis petit alors que j'habite à la campagne. Alors, qui nous dit ça? C'est les scientifiques qui nous disent qu'il y a un lien entre pollution et asthme. D'ailleurs, la population française et la population mondiale est de plus en plus asthmatique. d'ailleurs. Donc c'est pas moi qui dis ça, ce sont les scientifiques déjà. Et effectivement, tu peux être aussi asthmatique pour d'autres raisons que la pollution, la génétique par exemple. Voilà. Mais c'est pas parce que ton cas particulier ne suffit pas à infirmer un cas général, quoi. On sait aujourd'hui que la pollution, en fait, nous rend plus sensibles au pollen, par exemple. Allez, on enchaîne. On finit en douceur, on finit avec de l'amour, on finit avec du plus léger, quoique non, puisqu'on va parler de littérature. Littérature, c'est l'essentiel, c'est la vie, bien sûr. Avec ces influenceurs, nous dit le Figaro, ces créateurs de contenu qui mettent en avant la lecture, les livres, la littérature. C'est pas un phénomène nouveau, mais c'est cool que le Figaro y consacre une page. Ces influenceurs qui remettent les jeunes à la lecture. Maxime Biaggi, Eneris Po le fait. Maxime Biaggi le fait, je sais. Je ne sais pas s'il le fait toujours, mais il le fait. Alors que depuis quelques années, les jeunes lisent de moins en moins de livres. Il y a une étude récente qui vient de sortir là, sur la baisse de la lecture chez les jeunes français. C'est waouh! Les influenceurs littéraires, alors influenceurs au guillemets, donc le Figaro sait bien que ce mot, il est utilisé là pour se faire comprendre de ses lecteurs, mais ce n'est pas forcément le bon mot. Les influenceurs littéraires se sont multipliés sur les réseaux sociaux, au point que les maisons d'édition, pourtant habituées aux médias traditionnels, commencent à s'attacher leur service. Carlito aussi y fait? Carlito aussi. Merci Edmurel. Un chewing-gum à la bouche et le regard franc, Valentine nous sourit. C'est un roman de David Fuenquinos, La Délicatesse. J'ai vu plein de vidéos sur TikTok, ça a l'air ultra bien, je l'ai acheté. Se félicite la jeune lycéenne de 16 ans, sortant de son sac un livre dont l'une des pages est écornée. Sa réjouissance n'est pas sans fondement, alors qu'elle n'avait pas terminé un livre depuis des années. Merci Screen Noir. Elle explique avoir enfin trouvé chaussure à son pied, et de celui-là, elle entend bien aller jusqu'au bout. Le ton est léger, mais le sujet est sérieux, alors que l'on répète que les Français lisent de moins en moins, ce qui est vrai. La technologie, les réseaux sociaux, l'IA poursuivent leur petit bonhomme de chemin en terminant d'envahir le moindre recoin de nos vies et de nos moments de liberté. Une étude du Centre national du livre pointait déjà l'an dernier la grande dégringolade. En 2025, pour la première fois depuis 10 ans, moins d'un Français sur deux déclarait lire tous les jours ou presque. Une nouvelle étude de 2026, ah oui, ils en parlent. Ils en parlent, j'ai vu ça dans d'autres articles, a souligné l'écart abyssal entre livre et écran chez les 7-19 ans. Ces derniers, donc les jeunes, passent en effet 10 fois plus de temps sur leur téléphone et leur ordinateur que sur des ouvrages. 3 heures et 1 minute entièrement consacrées par jour à des petites vidéos aux réseaux sociaux contre 18 minutes de lecture. Clama coquine me dit, moi je lis le chat tous les jours, ça compte, ça compte. La lecture, c'est la lecture. La lecture de ce qui est écrit sur un paquet de céréales, la lecture du chat, la lecture des articles. Moi, l'important, je pense que c'est de lire. Chez les 16-19 ans, les chiffres donnent presque le tournis. Si ces derniers ne lisent quotidiennement que 14 petites minutes, ils donnent à leurs écrans près de 5 heures d'attention, hein, quand près d'un tiers de cette tranche d'âge ne lit tout simplement pas. Ne lit tout simplement pas. On est d'accord, la lecture, c'est pas que des livres. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La lecture, c'est le commerce des mots. Alors évidemment que. Il y a plein de littératures différentes, mais lire un journal finalement. C'est lire. C'est lire. Il y a un truc actif aussi dans la lecture. Hein? On est moins passif que par rapport à une vidéo même, ou de l'audio, quoi. Il y a ce processus actif. De lire un passage, d'en sauter un autre si on veut, de tourner les pages, de s'intéresser à tel article par exemple et pas à tel autre. Face à cette réalité douloureuse, donc la baisse de la lecture, les influenceurs, les créateurs de contenu, les prescripteurs, pourquoi pas critiques littéraires, c'est intéressant parce que le Figaro voilà, dit il y a plein de mots possibles, ont choisi d'investir le terrain du virtuel, du numérique, hein, tu peux le dire, mec. On n'est pas en VR, pour y allumer des contrefeux. Il faut aller chercher les gens là où ils sont, dit Jeanne, par exemple, 25 ans, créatrice du café de Jeanne, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on retrouve sur Instagram, TikTok et YouTube. Ou elle a 120 000 abonnés sur YouTube, par exemple. Tiens, on va aller voir, tiens. Je connais pas. Allez, le café de Jeanne. Comme j'étais sur YouTube, j'en ai profité. Ok. Le café de Jeanne. C'est là. 121 000 abonnés. C'est cool. Vidéo. J'ai lu 10 livres en mars.
Waouh.
Une semaine dans ma vie, expo, travailler dans les cafés, tournage, goûter. 8 livres féministes à lire absolument. 20 nouveaux livres pour ce début d'année. On est sur une à deux vidéos par mois, donc c'est des vidéos assez assez longues peut-être. Petite pub, on aime la publicité. L'océan Indien, 13 jours, 10 nuits. C'est les voyages Leclerc. Allez hop.
Weber, un petit pas pour votre barbecue, un grand pas.
Oh, ça sent l'été ça.
À découvrir sur Weber.com.
Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un bilan de mes lectures du mois de mars qui a été assez conséquent cool. Parce que j'avais commencé pas mal de lectures en février que j'ai terminé en mars. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Pendant une semaine, je lisais une nouvelle par jour de ce recueil qui est nommé Chienne de garde par Dalia de la Cerda.
C'est super, hein, moi j'adore, hein, je trouve ça formidable. Voilà, donc ça c'est par exemple, c'est... le café de Jeanne, voilà, qui est sur les réseaux et notamment sur, sur YouTube. Le pari semble osé, dit le Figaro, est pas tout à fait perdant, puisque toujours d'après l'étude de 2025, 78% des 15-19 ans, 60% des 25-34 ans déclarent trouver sur les réseaux sociaux des suggestions de lecture. Est-ce que tu trouves le temps de lire ça? Non plus, moi. Depuis des années, je lis plus littérature. Je lis les journaux, c'est mon bonheur et j'adore ça, et je lis le chat. Voilà. Mais quand je serai vieux, parce que là, je suis encore très jeune, et très, très, très shiny, tout luisant, quand je serai vieux et que je disparaîtrai progressivement des réseaux sociaux et que je prendrai ma retraite littéralement de ce monde, je ferai un pas de côté, un pas en arrière, ma vie sera faite de livres et de chocolat et de café et de petites promenades pour bouger un petit peu. Voilà. Donc la littérature reviendra. Et donc aujourd'hui, 78% des 15-19 ans, 60% des 25-34 ans déclarent trouver sur les réseaux sociaux des suggestions de lecture. Contre toute attente, ces plateformes pourraient s'avérer être un levier efficace pour pousser les internautes à faire autre chose que scroller et binge-watcher. Appâter l'internaute, certes, mais comment? En rusant, soutiennent les influenceurs, il faut casser la logique du swipe, voilà, dans laquelle l'internaute est plongé sur le réseau social, nous explique Martin Boujol. Boujol. Attends. Les tuches. Attends. C'est pas Boujol qui habite les tuches? Ah, c'est Bouzol. Pardon. Ah, j'ai des refs, moi.
Regarde, Monnier. Bouzol. Monaco, on avait mis un peu moins de 8 heures.
J'ai cassé YouTube. Hop, c'est pas bon ça. Hop, c'est bon. J'ai perdu. J'ai un PC de gamer qui a du mal à faire tourner YouTube et Google en ce moment. C'est pas grave, faut attendre quelques secondes. Je suis là, vous me voyez toujours. Pas possible. Ça, c'est étuche ça. Il faut juste attendre. Voilà. Bon, à un moment, ça va faire... Ah, c'est cassé! Allez! Oh. Il faut virer l'accélération matérielle dans Chrome. Ah, voilà, regarde. Allez, Bouzol. Ah!
Bah, je prends le bac.
Attends. C'est dans lequel celui-là? Putain. Ah, désolé, moi j'aime bien ces conneries. Bon, je continue. Donc monsieur Boujol, pas Bouzol, où est-ce qu'il est? Donc Martin Boujol, véritable mastodonte du marché de l'influence littéraire, dont le compte Instagram La Nuit Sera Mot est suivi par près de 350 000 personnes. Martin Boujol. Il faut que les trois premières secondes de la vidéo accrochent l'internaute, explique-t-il. C'est ce qu'on appelle le hook. Quand j'écris le script, je dois absolument penser à toute une logique de rétention. 3 secondes pour pousser la lecture de Sand, de Maupassant, du dernier Mauvigné, l'écart sans vertigineux. Moi, je fais pas ça, le hook, moi. Je devrais ça. Moi, je devrais faire le hook comme ça en début de stream. Tiens, on va afficher. C'est quoi, tiens, tu vois, j'aurais par exemple... tu vois, un hook, par exemple, sur l'Iran au bord de l'asphyxie. 3 secondes. Genre, les gars, l'Iran est en train de mourir. Je vais tout vous dire. Un truc comme ça. Ou alors, entre Trump et Mélanie, c'est tendu. Okay. Les gars, Trump et Mélanie, ils s'aimaient d'amour, mais c'est fini. Tu vois, hein, la loi Yadan sur l'antisémitisme. Ah ouais, ça c'est plus difficile ça. Ouais, ça c'est difficile ça, 3 secondes. Hein. Ça c'est plus dur ça. Les ZFE enterrés. Ah ouais. Tout le monde vous dit que les ZFE sont enterrés, et moi je vais vous dire qu'en fait, elles vont être déterrées. Hein? Pas mal ça. Pas mal ça. C'est bien ça ou pas? C'est bien ou pas? Ça va le hook? Faut que je m'entraîne là-dessus, moi. Vous avez mordu? Faut... Non, c'est pas encore... Commence par « Est-ce que tu savais ?» Ah ouais. Il faut être plus dark, par exemple. Est-ce que tu savais? Ah ouais. Ok, ok. Ok. Donc bref, je reprends. Pardon. Est-ce que tu savais? Ah ouais. Ce qu'on vous dit pas. Ce qu'on ne vous dit pas. Ah ouais. Il faut plus de violence. Il faut du clash, du clic, du buzz d'éclair. Ah ouais. Cette loi va tout changer. On vous explique pourquoi. Ah ouais, ouais. Il y a des mecs qui font ça. Je vois ça sur Internet. Ah ouais. Cette loi va tout changer. On vous explique pourquoi. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais. Genre, ce pays va mourir et je vais vous dire pourquoi. Un truc comme ça un peu, pour l'Iran. C'est bien ça? Ouais. Ou alors, on va tous mourir asphyxiés et je vais vous dire pourquoi. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pour la ZFE. Ah ouais. T'es pas mal? Ah ouais, c'est bon ça. Vous êtes déjà mort, mais vous ne le savez pas encore. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, et Trump et Mélanie, par exemple, c'est quoi? Ah oui. Si je fais Mélanie a trahi Trump, et je vais vous dire pourquoi. C'est bien ça? Avec une grosse flèche rouge. Je t'explique tout. Oh, j'adore Internet. Continuons sur la littérature, du coup. Voilà. Les stratégies sont donc diverses et inventives. La vidéo se lance sur votre écran et vous pouvez tout aussi bien entendre « Cet auteur s'est suicidé après avoir écrit ce livre. » Ah ouais, ils sont assez forts, ça. « 5 livres à lire dans ta vingtaine. » Enfin, si t'es dans ta cinquantaine, t'en as plus rien à foutre, du coup. Ou encore « Pourquoi les tyrans ont peur de ce livre de 30 pages. » Ah ouais, c'est fort. Alors votre curiosité est piquée et vous consentez à vous attarder sur la publication. Lola Moreau, sur Instagram, suivie par plus de 35 000 personnes, surenchie avec une pointe de frustration. Nous devons trouver des stratagèmes pour garder les gens sur nos vidéos, ce qui représente un vrai problème. Voilà. Il faut tout le temps renouveler son montage. En ce moment, il y a un immense travail qui est fait pour que la poésie, par exemple, l'écriture qui exige le temps long, ait sa place sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de combat. J'adore. Salut, c'est Mélanie. Vous vous demandez sûrement pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation. Revenons un peu en arrière. J'adore. Mais la variété de leurs chroniques, donc la forme, le montage, tout ça, le hook, n'est pas la seule composante de la réussite de ces critiques 2.0. Leur proximité avec les internautes, que n'a pas un critique littéraire classique, a en effet tout à voir avec l'essor de leur métier. Quand tu es un gamin, tu es plus disposé à écouter le mec sur les réseaux qui a plein d'abonnés que ton prof de français qui a un master en littérature médiévale. Nous agissons comme des amis, ils nous voient tout le temps et nous trouvent sympas. Résume Martin Boujol. Mieux, l'influenceur comprend la détresse de son abonné. Ce que je lui dis en substance, c'est que moi aussi, à l'époque, je savais rien. et car je n'avais pas beaucoup lu, comme lui qui ne sait rien aujourd'hui. Par contre, je sais comment j'ai fait pour savoir. La phrase est complexe, mais le message est limpide. Je suis passé par là, toi aussi, tu peux le faire. C'est pas mal ça. Et je vous en parle dès maintenant. Ah ouais, ouais, ça commence à venir là. Je commence à l'avoir le hook. D'autant que les influenceurs offrent une lecture bien moins académique, bien plus personnelle de leur expérience. Les abonnés ont plus de connivence avec une personne qui leur ressemble, hein, qui va parler de ses coups de cœur de façon très subjective. C'est pas mal ça. Assure Jeanne, ce qui attire le chaland, c'est aussi cette dimension personnelle, voire intime. C'est une parole qui n'est pas une parole d'autorité. Hein, les influenceurs parlent de coups de foudre ou de livres qu'ils n'ont pas du tout aimés. En réalité, les livres laissent rarement les gens indifférents. Les influenceurs, comme un proche, disent la vérité. On sait bien que les influenceurs disent la vérité. Ivre, il ouvre un livre. La suite va vous étonner. Hein, j'adore. Un métier libre et peu académique, mais qui a toutefois un prix, car les influenceurs littéraires sont très peu nombreux à vivre de leur passion. La quasi-totalité n'en vit pas et fait des métiers très variés à côté. En clair, les influenceurs en matière de littérature sont souvent des vrais passionnés, des dévoreurs ou dévoreuses de livres. Pourquoi dévoreuses ? Parce que l'écrasante majorité des influenceurs sont, en matière de littérature, sont des influenceuses. Donc c'est plutôt des dévoreuses de livres. C'est intéressant. Bah, les mecs sont en train de regarder PSG. C'était quoi PSG quoi là ? C'était quoi là, c'était Liverpool ? C'est ça ? Hein ? Les mecs, il y a PSG Liverpool. Hein ? C'est ça, hein ? Alors, j'ai vu qu'on tombait sur le Bayern après, c'est ça ? Après, c'est le Bayern, en demi ? C'est ça ? On va gagner ou pas ? Je connais rien, moi. On gagne ou pas ? Contre le Bayern ? Allez, prono, c'est parti, let's go. Ça va être chaud. Il y a match. Très chaud. Ça risque d'être chaud. Bayern easy. C'est solide. Ouais, mais le PSG, incroyable. Ok. Ok, je vous le fais. Le PSG va gagner contre le Bayern. Et je vous explique pourquoi. Hein ? Hein ? Vous êtes ça vous plaît ? Donc on a plusieurs portraits de créatrices, justement, de contenu, d'influenceuses, qui parlent de leur histoire. C'est mignon d'ailleurs. C'est sur son canapé que Maïté Defive, créatrice de la page Mademoiselle Lee, suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram, s'est pour sa part lancée dans ce projet. Je regardais l'émission un dimanche à la campagne depuis Madrid, où j'habitais grâce à un VPN, et le présentateur a parlé d'Éric Emmanuel Schmitt, comme de quelqu'un de très connu. Et pourtant, moi, j'en avais jamais entendu parler. Quelque peu vexée, la jeune femme court à la FNAC. Enfin, c'est en Espagne, donc c'est pas la FNAC. C'est El FNAC. El FNACO, je pense. Plutôt, je pense que c'est trompé. El FNACO, hein, pour acheter le livre que le présentateur vient d'évoquer, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est un très beau roman. El FNACO. Ce livre a été un coup de foudre, il m'a procuré un tas d'émotions. Dans la foulée, j'ai lu tout Schmitt en une année, et depuis, j'ai plus arrêté. Au point que la jeune femme a lâché sa carrière en banque assurance. Quelques années après, pour vivre de sa passion, j'ai posé un congé sans solde et je suis jamais revenu. Ça va la vie, hein ? Allez, Madrid, allez, El FNACO, et puis maintenant ça lit des bouquins. Allez, en mangeant de la... Comment ça s'appelle là ? La tortilla, con la cerveza, un tinto de vino verde. Eh ben, il y en a qui s'emmerdent pas, hein ? Eh ben, le tapas. Là, ça passe plutôt, non ? Paella, si ? Ah, sa vie, hein. Ah, il y en a qui s'emmerdent pas. C'est toujours gênant. Oui, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ah oui, le petit cliché espagnol. Moi, je suis très cliché, moi. On aime les caricatures, ici. J'adore l'Espagne. Premier degré, j'adore ce pays. J'adore cette langue. J'adore ce pays, j'adore les Espagnols. Voilà. Martin Boujol, retour à Martin Boujol, qui vit entièrement de son activité aujourd'hui, nous raconte avoir fait ça par accident. C'est drôle. La littérature, il aime ça depuis toujours, mais comme une activité en arrière-plan. Voilà. Il a fait des études de finance à Genève. C'est fou, ces gens. À cette époque, le jeune homme ne sait pas avec qui parler de ses lectures du soir. C'est drôle, hein. Jeff Boone, bonjour, c'est le BSCR. On a reçu un signalement au bureau de surveillance des clichés racistes. Je t'emmerde, Jeff, en fait. Voilà. Voilà. Je sais pas comment te le dire en espagnol, mais je t'emmerde, en fait. Voilà. Je peux continuer, là, mon article ? T'en donner, moi, du raciste. Je suis poursuivi dans la rue par des députés RN et ça me traite de raciste. T'es miardo ? Bah t'es miardo, ouais. Voilà. Foiré, bah. Je peux continuer, là, c'est bon ? Cabronne, voilà. Allez, je continue. Et donc, le gars, il fait des études, il travaille dans la finance, mais il savait pas avec qui parler de ses lectures du soir. Il prend alors la décision folle de lancer un compte sur les réseaux sociaux en parallèle de sa carrière en banque digitale, donc c'est la banque avec les doigts. C'est la banque avec les doigts. Et private equity pour apaiser cette frustration. Je me levais donc à 6h du matin, je lisais jusqu'à 8h, j'enchaînais avec ma journée de travail, et puis j'écrivais le soir. C'est cool en vrai. Le week-end, je prenais des photos pour les posts, c'était chaud, le sommeil, je m'étais imposé cette discipline de poster régulièrement, de faire de ça une hygiène de vie. J'aimais ce projet, mais je me disais absolument pas que ça allait devenir ma vie. Pas mal, hein ? Avec les années, l'affaire s'emballe, et Martin s'impose comme un incontournable. Dans son book club géant, les rangs grossissent et réunissent de grands lecteurs qui décident de sortir de leur zone de confort. C'est super. Stratégie gagnante donc pour quelques créateurs de contenu, hein, vous l'avez compris. Voilà. Y compris aussi pour les maisons d'édition qui ont presque toutes pris ce pli aujourd'hui. En mars dernier, Gallimard a lancé un appel aux influenceurs. Vous possédez un compte Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, autour des livres ? Vous aimez créer du contenu pour parler de vos dernières découvertes littéraires ? Rejoignez le club de lecteurs Gallimard et devenez, et devenez un ambassadeur littéraire. Voilà, un truc un peu comme ça, vous voyez. A publié la prestigieuse maison d'édition sur son compte Facebook. Nous travaillons de plus en plus avec des influenceurs, confirme Pauline Spielmann d'Actes Sud, qui explique qu'il est d'ailleurs parfois possible, même si c'est rare, de voir l'impact d'une vidéo sur les ventes d'un livre. Nous avons des comptes sur tous les réseaux, mais avoir des influenceurs comme Roland nous permet de toucher d'autres personnes, dit Pauline. Cela permet d'augmenter la visibilité d'un livre ou la lecture de manière générale vers un public que nous n'arrivons pas habituellement à atteindre. J'aime bien cet article en vrai. Le projet est vaste et présente une dimension presque prophétique à l'heure où la lecture d'un grand ouvrage est remplacée par des résumés faits en quelques secondes avec une IA. Les influenceurs, c'est gosy, la lecture, c'est la curiosité, c'est le plaisir, c'est l'ouverture d'esprit. Une évasion incroyable, sans enthousiasme maïté de Fives. Martin Boujol, lui, vante les bienfaits des grands textes, des classiques, la nuance, l'empathie, l'imagination, l'esprit critique. Si Martin a commencé son activité sans idée derrière la tête, il pressent aujourd'hui l'urgence de la situation. Les générations d'avant n'étaient pas forcément composées que d'énormes lecteurs, mais eux n'étaient pas agressés en permanence par l'information en continu et les réseaux sociaux. Nous avons besoin de nous soigner plus que les autres, plaide-t-il. C'est bien, hein ? En ne lisant plus, nous laissons en jachère des instances, des puissances intérieures qui ont pourtant besoin d'être activées. La pensée profonde, la contemplation, la vraie rêverie, pas celle qu'on nous impose, mais celle qui vient se glisser entre les lignes d'un texte. Expliqué dans nos colonnes en décembre dernier, l'écrivain Emmanuel Godot. Il y a quelque chose de cela dans l'activité de ces travailleurs propres au XXIe siècle. Lire, c'est le voyage exigeant depuis son canapé, l'évasion par la force de l'imagination, nous disent-ils tous en substance. À la passivité que sous-tendent les réseaux sociaux, le cerveau doit opposer une ouverture volontaire et accrue à la lenteur, à l'exigence, à la complexité de la lecture. Les influenceurs le pensent, l'assument, le crient, et à vrai dire vrai, ne le crient pas tout à fait dans le désert. C'est pas mal, hein ? C'est fou. Alors c'est marrant parce que ça parlait de voyage, la littérature, la lecture qui fait voyager, et vous savez à quoi ça me fait penser, moi ? Le voyage, ça me fait penser à ça, moi. Je crois que je l'ai pas vu celui-là. Non, j'ai pas vu. Et ouais, quand je serai à la retraite, je pourrais regarder tous ces films que je n'ai pas vus, tous ces classiques. Allez, on finit en musique avec un rappeur que je ne connais pas, que vous ne connaissez. Oh, je vais vous faire un hook. Ah ouais, je vous fais un hook. Attendez, je vous le fais. Maintenant, pour mes vidéos YouTube, je vais faire que des hooks comme ça. Alors je vous fais un hook. Attends, je vous montre l'article. C'est un rappeur. Voilà. Tu ne connais pas ce rappeur, et pourtant, il va changer ta vie. Hein ? Alors ? Hein ? Pas mal, hein ? Tu vois ? Ça. Alors, ça valide ou pas ? Bof, hein ?
Ok.
C'est John ? C'est... Alors je ne connais pas ce rappeur. Est-ce que vous le connaissez ? L'humanité veut nous le faire reconnaître. Je trouve ça cool. Il s'appelle Will. Voilà. Le rappeur qui voulait être heureux. L'artiste breton mêle une écriture humaniste. C'est un breton. Vous connaissez pas ? Mêle une écriture humaniste héritée d'Ayam. Déjà, ça fait plutôt envie. Pour chanter la paix et le vivre ensemble. Qu'il défend aussi en tant qu'animateur socioculturel avec une sincérité désarmante. Et puis c'est un article qui va nous parler de handicap aussi. Et j'ai trouvé ce portrait extrêmement touchant, extrêmement fort, et ça m'a donné envie d'aller écouter. J'ai écouté ce matin dans ma salle à manger quelques extraits. Je trouve ça plutôt sympa. Simple mais robuste, Willy est à l'image de son terroir. Il vient rapper à Cancale, petite bourgade d'Ille-et-Vilaine. Cancale, une bourgade. Mais tu sais ce qu'ils disent les Cancalais? Mais bourgade, Cancale. Mais ils sont fanas. C'est quoi ça? C'est quoi à l'humanité? Cancale, une bourgade. Pouah, c'est un des phares de la civilisation, Cancale. Bon con. Cancale, il y a combien d'habitants? 5672. Ah ouais, j'aurais dit plus. Ok, d'accord. À Cancale, il y a plus d'huîtres que d'habitants. Ça, c'est vrai, ça. Donc, il vient rapper à Cancale, petite bourgade d'Ille-et-Vilaine, où on peut savourer d'énormes huîtres. Devant la plage, j'ai arrêté les huîtres parce que je digérais pas du tout les coquilles là. Je sais pas comment on pouvait bouffer ça. Déserte malgré le soleil et distinguer au loin la silhouette flottante du Mont Saint-Michel. Les bars, les restaurants du quai s'emplissent quand, avec le soir, vient la fraîcheur. Avec le soir, vient la fraîcheur en Bretagne. Tu te fous de ma gueule aussi? Attends, mais ils sont jamais à Cancale. La fraîcheur, c'est pas le soir à Cancale. C'est le matin, le en matinée, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand vient la fraîcheur le soir, n'importe quoi. Que les pêcheurs et les touristes adoucissent aux vapeurs d'alcool. Ah, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai, je connais. Enfin, une vérité dans cet article. Ils sont encore réchauffés par la performance de l'artiste qui abreuve de ses textes humains et de ses refrains entraînant les établissements de la région. Cette côte d'émeraude, William l'a sillonnée, faisant sa scolarité à Cancale et à Saint-Malo, avant de passer la Rance pour s'installer à Dinard en tant qu'animateur socioculturel. Et rappeur, donc, ce qui l'amène à faire un feat avec le Marseillais Faf Larage en 2025, à émouvoir le jury de l'émission La France a un incroyable talent en 2022, hey, et à remporter un prix lors du tremplin RATP des musiciens du métro en mars dernier. Avant de prendre la plume, le jeune homme était mis en avant pour ce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire un handicap visuel qui l'oblige à porter un équipement lourd et à être assis au premier rang de la classe. Je ne passais pas inaperçu, plaisante-t-il, on commence tous avec des pièces de puzzle qu'on n'a pas forcément choisies. Le fils d'un plombier et d'une mère au foyer subit donc les questions de ses camarades, la moquerie parfois, mais aussi l'empathie, la gentillesse, toute cette palette humaine, dit-il. Avec un ami d'enfance, il commence à écrire après avoir été foudroyé par l'écriture d'Akhenaton et de Shuriken, les deux piliers d'Ayam, et les mélodies de Michael Jackson. Le rap, c'est viscéral, sourit-il, ça sort des tripes du cœur, c'est puissant, tout en étant accessible, on peut en faire partout. Si Will penche petit à petit vers la pop et la chanson française, ah, ok, donc c'est rap matiné de pop et de chanson française. C'est bien ce qui m'a semblé en écoutant ce matin. J'ai bien aimé, moi. Son premier amour toutefois ne le quitte pas, comme en témoignent les textes engagés et pacifistes de son nouveau projet « Je voudrais juste » sorti le 27 mars, qui est aussi le nom du titre avec Faf Larage, rencontré dans la cité phocéenne pour le clip. Pas mal. Ne me dites pas que c'est un breton. Si, c'est un breton. Au boulot, la même avis d'aller vers les autres l'anime. Je fais des ateliers avec des enfants, des ados, des personnes âgées. On écrit, on compose des refrains ensemble, affirme-le. L'artiste, j'essaie d'être sincère, de me donner à fond pour toucher d'autres personnes. Akhenaton disait « L'identité, c'est bien. L'humanité, c'est mieux. » Mais waouh quoi ! Ça pourrait presque être un programme politique, ça. Enfin, pas de tous les partis, hein. Du coup. L'identité, c'est bien. L'humanité, c'est mieux. Ouais, ça pourrait pas aller à toutes les formations, mais ça pourrait être un programme. Un début de quelque chose, tu vois. C'est mignon, non? Attends, alors, l'article dit qu'il a ému le jury de l'émission La France a un incroyable talent. Alors, Will, La France a un incroyable talent. Will. Ça va pas être Will Smith, parce que je pense que c'est pas ça. Will, La France a un incroyable talent. Je suis sûr que je vais le trouver. Alors, attends. Will. Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est nul. C'est Will Smith. Non, Charou, non. Je l'ai pas. Will. Pourquoi ça marche pas? C'est nul. Ah, y a Tuche.
Avec le mode à la maison.
Par contre, y a Tuche. Eh oui! Petite surprise!
Bien la nuit.
Ok. Waouh! Bon, ok, c'est pas. Je pense que je suis pas tombé sur le meilleur exemple. On va écouter Will. Alors, est-ce que je peux trouver Will, le rappeur, du coup? Moi, j'ai écouté sur Spotify, j'ai bien aimé. Ah ben! Effectivement, il a un feat avec Faf La Rage. On peut écouter ça, non? Vous en pensez quoi?
Vous êtes des amours, merci pour votre accueil, votre gentillesse, merci.
J'arrête parce que je vais encore me prendre un DMCA. Voilà, j'aime bien. Merci Luma. Voilà, on a découvert un artiste. C'est la maturité de Jul, me dit Mirzal. Voilà. Plus de chansons françaises que de rap. C'est ce que disait l'article, en fait, qu'il avait évolué du rap à l'origine vers plus la chanson française aujourd'hui. Voilà, c'est ce que disait l'article, effectivement. Ça s'appelle Will, W-Y-L-L. Pourquoi le classer comme rappeur? Parce qu'il a débuté en tant que rappeur, manifestement, tout simplement. Les amis, des bisous. On va faire un petit raid et on va se retrouver, je l'espère, ce soir, cet après-midi, séquence hardware avec Joe. Ça va ouvrir des PC. On va changer des cartes graphiques. On va tester du matos. Ça va être une dinguerie. Et on se retrouve ce soir peut-être pour je sais pas, une petite audition, peut-être un peu de jeux vidéo. On joue plus aux jeux vidéo sur cette chaîne. Quel scandale. Quelle heure ce soir? Bon, bah, quand les enfants commencent à se coucher, quoi. Vers 20 heures, par là. Qui est en live? Oh, il y a du monde là. Mais c'est fou tous les gens qui sont en live là. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Ah ah! Hey! Est-ce que vous avez faim? 13 km de vélo jusqu'à mon usine, force Renan. Est-ce que vous avez faim? Vous avez faim? Ok, c'est parti. Haha. Eh ben, on va manger. Parce qu'on va voir l'ami Bardino. C'est parti. Hop, ça charge. On éteint la caméra ici parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Bardino, c'est de la cuisine. Et c'est de l'humour. C'est de la bonne humeur. C'est d'énergie. Voilà. Et ça mérite de la force. Il m'a invité dans sa cuisine il n'y a pas longtemps. On avait bien rigolé. Prenez soin de vous. Belle journée. Beau jeudi. J'espère qu'il y a de la lumière chez vous. On se retrouve ce soir. Je ne sais pas encore pourquoi. Ça va être la surprise. Et demain matin, pour la revue de presse, ça c'est certain. Des bisous. À tout à l'heure.